Et bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième FAQ de Sœurs d'édition qui est là pour le 9e anniversaire. Donc comme chaque année, c'est la tradition maintenant, et on est autour de la table avec Ludo qui est autour de chez lui, mais qui est quand même avec nous, voilà. Et on répond du coup aux questions que vous nous avez posées durant les dernières semaines. Donc du coup, les questions, vous les avez posées sur nos réseaux sociaux, donc Discord. Discord est-il un réseau social ? Première question.
Oui, bien sûr. Oui.
Twitter, Facebook, Instagram et j'en passe. Donc on a récolté vos questions. Alors il faut savoir que cette année, il y en a eu beaucoup. Et donc on a dû faire des choix. Je crois que c'est la première fois que ça arrive, mais là il y en avait tellement qu'on ne pouvait pas faire une FAQ de 4 heures. Donc on a fait une sélection de questions. En tout cas, merci à tous. Donc, autour de la table, j'ai d'abord à ma droite Nicolas Coursier. Bonjour,
bonjour
Nicolas.
Bonjour tout le monde, merci pour vos questions.
À ma gauche, j'ai Mehdi El Kanafi.
Bonjour à tous.
Plus loin là-bas, j'ai Damien Méchery.
Bonjour, bonjour.
Et encore plus loin là-bas, j'ai Ludovic Castro.
Et bonjour.
Et enfin, pour ma part, je suis Ken Bruno, enchanté. Alors, du coup, les questions, comme d'habitude, elles sont divisées en catégories. La première catégorie, ça va être la maison d'édition. Ensuite, on va passer sur la catégorie livre wishlist, hein, parce que vous avez plein d'idées de bouquins intéressants. On aura ensuite une partie podcast, parce que c'est quand même une part importante de l'activité de Sœurs. Et enfin, on aura des questions un peu plus tranquilles, un peu plus perso. Donc, on va commencer directement avec la première question dans la catégorie maison d'édition. Et cette question, je la pose à Nicolas. Comment ça va vous et votre maison d'édition ?
Eh bien, je parle d'un collectif, ça va plutôt bien, ça va plutôt pas mal. Bah, comme beaucoup, en fait, on a connu une année 2023, alors pas difficile, hein, on va pas se plaindre, mais un petit peu en reflux, comme on dirait. Donc, inflation, crise généralisée, on sait que c'est compliqué pour tout le monde. Et évidemment, quand ton portefeuille est un petit peu à la peine, bah, c'est plutôt dans les loisirs que tu vas venir un petit peu rogner. Mais voilà, après un départ 2023 qui était vraiment un peu compliqué, bah, l'année s'est bien repris, a passé la moitié à peu près. On a fait un joli Noël et tout, et là, on est sur des bases 2024 plutôt cool, donc vous inquiétez pas, tout va bien pour nous.
Super. Question suivante. Quels seront pour vous les défis à relever pour les 9 prochaines années ? Oh, 9 prochaines années, ça fait loin quand même.
9 prochaines années, ça fait loin. Ouais. C'est quand même beaucoup. Alors, comme l'a dit Nico, c'est vrai qu'on n'a pas passé une super bonne année, mais comme l'ensemble de l'économie et des marchés. Néanmoins, on repart bien. Et puis, quand on nous pose des questions sur les perspectives à venir, moi, ce que j'ai tendance à répondre, c'est qu'il faut au moins nous souhaiter ce qu'on vit actuellement, dans le sens où on est quand même privilégié de vivre dans des métiers qui nous passionnent, de l'activité se suffit pour l'instant. Donc, dans les 9 prochaines années, j'espère qu'on sera au moins aussi bien qu'aujourd'hui.
On aura quel âge dans 9 ans ?
Je ne sais pas, je compte. Dans 9 ans, j'aurai 30 ans, moi.
48.
Pile pour les 30 ans.
Ken, tu seras bien, toi.
Moi, j'aurai votre âge actuel. Ouais, parce qu'on a à peu près 9 ans d'écart.
Tu seras à ton pic.
Ouais. Prochaine question, où réalisez-vous le plus de ventes sur votre site, sur les plateformes en ligne ou en librairie ?
Alors, c'est sur notre site, dans le sens où quand vous commandez sur le site de Sœurs, on court-circuite l'ensemble des réseaux de distribution libraires. Et bien que ça soit super important et fondamental pour notre activité, si vous voulez le plus nous soutenir, c'est en commandant directement sur le site. D'autant plus que, voilà, comme on l'a évoqué tout à l'heure, l'année dernière était un petit peu compliquée au niveau des librairies. Donc même si la tendance s'inverse, c'est-à-dire qu'on fait plus de ventes en librairie, là on commence un petit peu, ça a un petit peu baissé en librairie l'année dernière, assez fortement même.
Et puis il y a des signaux tout cons, hein, si vous regardez, je sais pas, dans les Fnac par exemple, vous avez peut-être vu, en tout cas c'est le cas à Toulouse, ils ont réorganisé carrément le rayon en mélangeant le truc pop culture, et ils ont fait un gros ménage. Alors nous, on a la chance qu'on a plutôt pas mal survécu à ce ménage-là, mais certains de nos confrères ont un petit peu dégagé. Donc encore une fois, c'est vrai que ça, n'hésitez pas, si vous êtes si vous êtes client d'une librairie et client habituel, parlez des bouquins de Sœurs, présentez-leur les bouquins de Sœurs s'ils connaissent pas, n'hésitez pas à faire la pub là-dessus pour qu'ils comprennent que ça existe.
Que simplement évoquer le nom, ça permet aux libraires de savoir qu'on existe, donc c'est chouette, quoi.
C'est frustrant cette régression quand même dans les Fnac. Déjà, ça a mis du temps avant de se mettre en place et finalement, ouais, qu'on voit que ça repart en arrière.
C'est vrai que ça a été une régression, ouais. Après, maintenant, ils mélangent un truc pop culture au global, on va dire. Donc, faut voir comment ça va évoluer, quoi.
Ouais, c'est même pas toutes les Fnac, hein, ou tous les Cultura. Il y a parfois, on est encore en informatique perdue. En tout cas, à Toulouse, nous, on est plutôt bien lotis. N'hésitez pas à nous dire où est-ce qu'on est placé dans votre ville, quoi.
Tout à fait. Prochaine question. C'est l'année du concours d'écriture. Alors, vous êtes doués, hein, parce que vous vous en êtes rendu compte, vous avez calé que c'était tous les 2 ans, et donc du coup, vous avez vu juste. En effet, c'est l'année du concours d'écriture. Pouvez-vous nous révéler le thème ? Eh ben oui, nous pouvons.
Petite annonce.
Attention, effet de réalisation.
Alors ça, c'est pour ceux qui nous regardent en live. Il y aura la rediff sur YouTube.
Il y aura la rediff sur YouTube, exactement. Oui, donc du coup, hein, pour ceux qui nous écoutent en podcast, hein, le thème du tremplin de cette année, ce sera littérature. Donc c'est une collection hein, qu'on a lancée il y a combien de temps maintenant ? 2021, je crois, la collection littérature.
Ouais, ça commence à
me
faire,
semble. Hein, il y a eu quelques ouvrages, comme par exemple celui sur Le Seigneur des Anneaux ou celui sur Terry Pratchett.
Ouais.
Et bah, on a envie de continuer d'étoffer cette collection littérature parce que vous lui avez accordé un joli accueil. Mm-hmm. Et donc, du coup, bah, on lance un tremplin sur ce sujet. Donc, comme pour les autres tremplins, hein, on vous expliquera toutes les modalités en temps voulu. Là, comme d'habitude avec la FAQ, hein, vous avez un petit peu l'exclu. Si jamais vous voulez vous lancer, bah, vous avez déjà le thème et donc vous pouvez vous préparer avant le tremplin. C'est en quelque sorte un petit cheat code. donc voilà, vous avez les cartes en main. On sait pas encore quand on va le lancer exactement.
Cet été, exactement. Ouais. Quand, je sais pas. On en profite hein, pour préciser que littérature, voilà, c'est pas de la fiction qu'on vous demande.
Oui. Mais
comme d'habitude, hein, là, c'est des livres analytiques transversaux, des essais sur bah, la littérature, bah, les grandes figures de la littérature qui ont inspiré bah, toute la pop culture actuelle.
Il y a peut-être des indices sur le visuel, hein, je ne sais pas.
Mais voilà, bon, pour ceux qui nous écoutent, en tout cas, voilà, tout ce qui est Jules Verne, Stephen King, Poe.
Un indice aussi, c'est que ça rend riche, hein, la littérature. Vous voyez, le visuel, hein, c'est, on dirait un bon billet de banque.
Oui, c'est vrai, on dirait un billet de banque.
Ça rend riche.
Très,
hein,
très joli.
On dit ça.
Je repasse sur la scène FAQ. Je vois qu'il y a pas mal de nos auteurs qui sont dans le chat. Bonjour à Motor Mike, à Riff en Piscine et à Pierre qui sont là et qui nous disent bonjour et bon anniversaire.
Bonjour,
merci.
Bonjour.
Salut la team, comment on dit.
Salut.
Prochaine question, pensez-vous étoffer les éditions First Print en y rajoutant des goodies ou autres ?
Ah, c'est une quête Egmed qui nous passionne depuis des années, on va dire. En fait, on avait bien cogité avant le lancement de Third, comment faire une édition First Print qui soit cool, qui soit pas compliquée à faire, on va dire, et qui change pas genre les proportions du colis, par exemple, ce genre de choses, et qui soit pas non plus très très cher à produire pour garder ce gap de 5€ supplémentaires de l'achat. Et ça fait combien? Des années qu'on se triture pour essayer de trouver une alternative?
Ça fait 9 ans, sinon.
Sans succès. Parce que l'idée, c'est effectivement de, au bout d'un moment, de changer de formule, hein, pour, voilà, toujours ramener de la nouveauté, etc. Et en fait, à chaque fois, on n'arrive pas à trouver une formule qui réunirait les mêmes conditions. Et qui serait pas, ben, soit qui coûterait pas plus, qui coûterait plus cher, ou alors qui, il y aurait peut-être des choses en moins, donc, bah, finalement, on commence un peu à faire notre deuil et se dire, ben, peut-être qu'on va rester là-dessus, quoi, parce que vraiment, on n'y arrive pas, quoi.
Il reste des exceptions, comme Prince of Persia, qui a eu son édition Prestige, voilà, qui n'est pas l'édition First Print, il y avait une édition First Print habituelle, et une édition encore supplémentaire. Ça peut revenir à l'occasion, on sait jamais, mais...
Pour des cas exceptionnels, on va dire.
Dans la même veine, pensez-vous étoffer le premium en y incluant de nouveaux avantages?
Bon, c'est un peu pareil, hein. C'est que on voit pas quoi faire de plus dans les conditions actuelles qui demanderaient pas des chamboulements trop importants à plein de niveaux, hein, parce que...
C'est très conditionné aussi à la collection Ludothèque et Médiathèque, qu'on réfléchit à changer ou à rebooter ou
à rafraîchir,
à transformer, on sait pas, mais c'est une collection qui nous tient à cœur dans sa forme et dans son fond, donc on aimerait bien la continuer. On aimerait bien aussi vous donner l'occasion, bah, pour ceux qui ont raté les premiers épisodes, enfin les premiers tomes, bah, de la rattraper, mais ça, on va y revenir. Donc voilà, que ça soit les First Print ou le Premium, on réfléchit avec peine à le renouveler. En tout cas, je pense que c'est une bonne occasion aussi pour vous manifester et pour nous dire ce qui vous ferait plaisir en Premium, ce qui vous ferait plaisir en First Print.
Est-ce que ça vous saoule? Est-ce que vous êtes toujours content?
Oui, ça serait super d'avoir des retours sur ça.
Donc voilà, on avait tout donné il y a 10 ans, on n'a plus d'idées maintenant, ça, on vit depuis dessus.
En fait, mais tu l'as bien précisé, hein, c'est qu'il faut que ça prenne en compte toutes les conditions, dont la condition pécuniaire, quoi. C'est que nous, on veut pas faire un collector qui soit inaccessible, sauf cas exceptionnel où on aimerait vous proposer quelque chose de prestigieux, mais c'est extrêmement rare. On veut que les First Print, voilà, restent accessibles pour tout le monde, que ce soit pas une condition de prix, une question d'accessibilité, quoi.
Oui.
Et ça, parce que sinon, on fait votre truc vraiment sublimissime. Si on enlève l'échelon de l'argent, ça peut être possible.
Let's go, quoi. Mais vous êtes pas prêts, là.
Personne n'est prêt.
Avez-vous dans l'idée de venir en convention en Belgique? Y a-t-il une possibilité que l'on vous voit sur d'autres salons que la Japan Expo et le TGS?
On est déjà venu en Belgique, en fait. C'était à combien maintenant? 4 ans?
Ouah, plus, c'était avant Covid plus, et tout. C'était ouais, au moins.
Attends, c'était
avant Ken et Ludo.
Ouais, j'étais pas là, moi.
Peut-être. Ça doit faire 6 ans, je pense.
C'était une année où on avait fait beaucoup de salons. On était allé, c'était quoi, à Lyon, à Montpellier.
Oui. Vous étiez jeune.
On était allé à Bruxelles, effectivement. C'était chouette, mais bon, c'est pas.
C'est loin.
C'est un peu loin, quoi. Organiser, niveau coût, niveau tout, c'est pas très simple. Donc, je pense pas qu'on y retournera dans l'immédiat.
Puis les salons, c'est vrai qu'on a mis un peu le haut là. On se contente de Japan Expo et de Toulouse parce que bah, un le plus lucratif, on va dire, et l'autre le plus proche. Et voilà, ça nous va comme ça. C'est vrai que faire plus, ça serait compliqué à un niveau orga, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est déjà des salons qui prennent pas mal de temps à organiser en amont, parce qu'il faut prévoir la, la venue des invités, il faut prévoir la tête du stand, enfin, il y a pas mal de trucs à gérer, et donc, ouais, mine de rien, c'est de l'organisation. Prochaine question. Pensez-vous faire une édition spéciale pour la FAQ de vos 10 ans, une surprise sur le site? Oh! Quelle bonne question.
Oui, alors, on a mis, je sais plus, on doit tous répondre, mais, plus que, on n'a pas encore réfléchi vraiment au côté événementiel, même si, justement, le côté événementiel, ça nous turlupine.
On avait fait un truc pour les 3 ans, parce que bon, CERD 3, tout ça, on est un peu sur le délire, donc on avait fait quelque chose à Paris, dans le bar Reset, où il y avait vraiment beaucoup de monde, c'était super cool. On a peut-être envie de reproduire ça. Sûrement au même lieu, on sait pas encore, et refaire un truc sur Paris. Alors désolé, hein, Paris, nous on est Toulousains, donc on préférerait le faire ici, mais on pense que c'est plus fédérateur à Paris. C'est là où...
Statistiquement, oui, ça va générer même plus, si potentiellement plus de lecteurs à Paris que
la seconde ville niveau écoute et vente, c'est Toulouse. Hein. Il y a une Toulouse
on
connection.
Va faire en tout cas Toulouse aussi. C'est extrêmement compliqué.
En tout cas, ouais, on a envie de faire quelque chose. Après, une surprise sur le site, c'est fort probable qu'il y ait un truc sur le site l'année prochaine pour les 10 ans.
Tout à fait. Bonjour Jérémy Karmarek, qui vient de nous rejoindre, auteur du coup du bouquin La musique dans Final Fantasy qui vient de paraître. Prochaine question, comment déterminez-vous le potentiel d'un jeu ou d'une saga à amener des lecteurs? Et c'est pas facile ça.
Non, il n'y a pas vraiment de réponse en fait, c'est comme on dit, c'est du flair quoi. C'est, il n'y a pas de réponse objective, c'est qu'on va se fier à notre historique de joueur, à ce qu'on sent aussi sur le marché, mais c'est vraiment... au feeling, en fait.
Et c'est peut-être le plus compliqué, se départir de notre aspect purement émotionnel et celui, ce qui nous va nous attacher à une série en disant, moi je l'adore, donc elle intéresse forcément du monde. Ce qui est dans la pratique, je pense, un peu vrai. Si elle nous intéresse à nous fortement, il y a forcément d'autres gens. Après, est-ce que c'est suffisant pour un potentiel bouquin? Ça, c'est le plus compliqué. Hein.
Oui, après, c'est le parallèle qu'on ressort chaque année, hein, mais Call of Duty versus Shin Megami Tensei, nous, on a fait Shin Megami Tensei parce qu'on estime que la niche de joueurs, même si réduite, sera plus à même d'aller se procurer un livre sur le sujet. Là où Call of Duty, il y a beaucoup plus de joueurs qui jouent, mais peut-être pas forcément des joueurs qui seraient intéressés par l'idée de s'acheter un bouquin en noir et blanc, non illustré, sur le sujet, quoi.
Après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que nos lecteurs, ils sont majoritairement fans de RPG. Et que du coup, sur ce créneau-là, on peut se permettre des choses qu'on peut pas forcément se permettre avec d'autres types de jeux, où là, du coup, forcément, comme notre lectorat est plus branché RPG, enfin, c'est fou, hein, à chaque fois, vous répondez présent dès qu'on sort un RPG, donc limite, on est là à se dire, jusqu'où on peut creuser, en fait, jusqu'où ça va continuer à fonctionner.
On cherche la limite, en fait, et t'as des bouquins qui vont un peu repousser cette limite, et on voit justement, est-ce que ça marche pas, et si oui, est-ce qu'on peut encore pousser plus loin?
Ouais, alors qu'il y a des licences au global plus populaires qui ont rencontré un succès moindre, parce que voilà, notre lectorat est avant tout un lectorat fan de JRPG. Mais bon, c'est normal en même temps, j'ai envie de dire.
Puis voilà, il n'y a pas de réalité. Enfin, il y a des fois, on se pose en disant, putain, c'est vrai qu'on a fait ce livre-là, qui nous paraît peut-être aujourd'hui plus risqué qu'un autre projet qu'on hésite à faire. Il n'y a pas vraiment de logique, en fait. C'est ça qui est un peu chelou, quoi. Yes.
Bonjour Mathieu Boutier, et décidément, nos auteurs sont au rendez-vous aujourd'hui pour cette FAQ.
Il n'y a que des auteurs.
Vous pouvez, vous aussi, les auteurs, poser des questions si vous le souhaitez. On est là, on est en live pour ça, n'hésitez pas. Prochaine question, pensez-vous augmenter les prix de vos ouvrages dans un futur proche? Tout augmente, mais vos prix sont restés intacts depuis la crise du Covid.
Alors, c'est l'heure de vous le dire. Non. C'est pas prévu, et c'est vrai que là on a traversé quand même quelques périodes compliquées avec le Covid, puis après l'explosion des prix du papier, puis l'explosion des prix de la logistique, et l'année dernière le marché a subi ce qu'on appelle une correction, donc dans les deux sens du terme, le marché s'est fait rouster, pris une correction dans le sens où en fait dans l'édition ça a explosé, et puis là on revient on va dire une proportion normale de vente et par rapport au public. Et nous, on a toujours choisi de conserver nos prix de l'époque, et ça a été
tanké, comme on dit dans le jeu vidéo.
Exactement, on a tanké, c'est-à-dire qu'on a pris sur les différents frais, et en premier lieu sur les marges, et c'était pour conserver en fait le niveau de vente, savoir que vous étiez habitué à un certain prix et qu'il fallait, si on devait augmenter les prix, il fallait peut-être le faire de façon ou minime ou pas du tout. On a choisi de le faire. Pas du tout. Après, on peut pas dire que ça n'arrivera jamais, mais sachez que c'est pas dans les plans, en tout cas.
Et ce qui est rigolo, c'est pas le bon mot, mais c'est qu'on voit que ceux qui ont soi-disant profité du Covid, les industries qui ont profité du Covid, on a payer tous le prix, donc ce soit le jeu vidéo, l'industrie du jeu vidéo ou l'édition, ben en répercussion en fait. Et là, c'est vrai que l'édition, nous, on a l'impression qu'on commence à sortir un peu des embrouilles. Et par exemple, l'industrie du jeu vidéo, là, le paye aujourd'hui beaucoup plus, alors qu'ils ont tiré beaucoup de bénéfices du Covid, quoi. Mmh.
Bonjour à Dark House qui vient d'arriver sur le chat. Dark House. Qui s'occupe extrêmement bien du Discord de Surd. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de Surd. C'est un endroit très rigolo.
Dis avec.
J'ai l'air convaincu. Il me force à dire ça.
Je rêve de pouvoir boire mon café le matin dans un mug Surd. Sera-t-il possible un jour d'en acheter un sur votre site?
Faut revenir dans le temps un peu.
Moi, je le bois tous les jours, mon café, dans un mixeur.
Il y a un des mecs qui va péter. Je sais pas si vous avez vu à l'intérieur.
Ah ouais, il est fissuré.
À l'intérieur.
Oui, ouais. Même pour nous, on en a plus assez. Hein. On est quatre au bureau en présentiel et il y a plus quatre mugs. Donc c'est devenu vraiment très rare.
C'était
mixeurs.
Quelle année?
C'était pour les 3 ans.
C'était
aussi,
pour les 3 ouais. ans. On avait mis vraiment le paquet avec les éditions ultra collector des 3 bouquins, donc Dark Souls, Zelda et FF à 333 exemplaires. Donc ça, évidemment, il y en a plus. Mais on avait fait des pins, casquettes, mugs. Et un autre truc.
Porte-clé.
Et ça avait quand même plutôt bien fonctionné. On avait appelé, c'était un pop-up store qu'on voulait. On voulait pas vraiment ouvrir une section merch. On voulait vraiment faire un truc assez exceptionnel. Dans le premier sens du terme, pour le coup. Et on n'a jamais pris en considération le fait qu'on pourrait le refaire. Mais
peut-être pour les 10 ans, pour le coup. C'est vrai qu'on a l'air de dire que ça y est. Hein,
après,
on répercute.
Voilà. Toujours pareil, on vous sollicite. Dites-nous, quel produit vous ferait plaisir. Est-ce que c'est plutôt Team Mug, je sais pas, casquette. Casquette, c'était compliqué parce que on avait fait plusieurs designs. On avait travaillé avec des styliste toulousain, qui est le pauvre, qu'on big up.
sans vouloir prêcher vente par voix, on vendait pas si cher que ça, les goodies, hein. Je crois que la casquette, c'est 25 balles.
Pour le coup, on margeait pas.
Elle est derrière toi, d'ailleurs.
Le mug, je crois qu'il était à 10 balles ou 15 balles.
En fait, c'était quasiment, nous, on les faisait produire à une certaine quantité parce qu'on est une entreprise et qu'on voulait en vendre un certain nombre, donc on les touchait à des bons prix, mais c'était des produits de bonne qualité et on voulait pas marger dessus, donc c'était des trucs assez sympas.
Les pins, c'était grave quali. Ils étaient super propres, super bien faits et tout.
Ouais, c'est vrai qu'ils étaient chouettes.
C'était cool, quoi. Bon, peut-être. Toujours pareil, dites-nous si pour les 10 ans, c'est quelque chose qui pourrait vous plaire.
Alors, bonjour à Max dans le chat qui est lui aussi, gérant en quelque sorte du Discord de Sœur d'édition.
Ouais, il est toujours.
Et Jérémy Karmarek demande une Funko Pop Damien Méchery. Alors, je signe direct. J'en prends 12.
Elle est déjà en rupture. Elle est même pas encore mise en vente. Qu'elle
incroyable.
Est déjà en rupture.
C'est mon rêve. Voilà, tu viens de créer un nouveau rêve en moi, Jérémy. Il y avait une question sur les porte-clés, mais donc du coup, on y a répondu en même temps. Pensez-vous faire une place plus grande pour les jeux indépendants, une nouvelle collection, par exemple?
Alors, on va pas ressortir download, hein, les vieux sujets qu'on a déjà traités dans 50 FAQ, mais en fait, les jeux indés, plus ou moins, trouvent une place dans notre catalogue à travers la collection Art of. On a déjà sorti deux bouquins dessus, dont Dead Cell, pour le coup, qui est un pur jeu indé, machin. Donc, on essaie d'aller étoffer cette partie de notre catalogue. C'est pas évident, ça prend du temps. Vous avez remarqué que c'est pas évident à sortir. Mais après, voilà, il n'y a pas de règle. Hein. Tu vois, Undertale, c'est un pur jeu indé aussi. Il a eu droit à son bouquin derrière. Donc,
On en a au moins un en projet en ludothèque et en gros bouquin. Je ne m'en rappelais, c'est pour ça. Mais oui, les jeux indés vont prendre une place plus importante, que ça soit dans la collection Art of ou même dans notre collection de livres en noir et blanc classique.
Ouais. Après, on fait pas trop de distinctions, nous. J'ai l'impression gros jeux indés, c'est vraiment jeux qui nous parlent, les jeux qui nous plaisent et voilà quoi. Mm-hmm.
Très bien. Prochaine question. Pouvez-vous nous parler de vos futurs projets? Un avant-goût. Ben, figurez-vous qu'on peut. Hein, on va profiter de cette FAQ pour vous parler des livres à venir, et on va commencer par le livre qui va arriver très très prochainement, puisqu'il va arriver le 6 mars pour les premiums, donc après demain et la semaine d'après pour tout le monde. Et attention, révélation. Et je vais donc laisser du coup Ludothèque.
Notre fameux. Non,
c'est parce que j'ai lu le chat en même temps, et il y avait Motor Mike qui parlait des Ludothèques.
Ludothèque Castro.
Mon cerveau,
bonjour.
Il a. Désolé Ludo,
je
désolé
suis
vraiment. Ludovic,
oui.
Du coup, hop, et voilà.
Donc au mois de mars arrive notre livre sur la saga Dishonored, qui s'appelle « Dans l'abîme de Dishonored, refonder l'immersive sim ». Donc il a été écrit par Loïc Delahaye-Yen, qui était en fait le vainqueur du tremplin de l'année 2022, donc celui sur les grandes sagas de jeux vidéo. Donc yes. Voilà, si vous aimez Dishonored, le livre arrive très bientôt.
Exactement, donc là c'est l'édition classique du coup que vous voyez sur le visuel, encore une fois désolé aux gens qui nous écoutent via podcast.
Sachez qu'on va faire une semaine d'annonces très prochainement, justement pour révéler tout ce que vous avez en exclu dans la FAQ.
Voilà, donc l'édition First Print du coup sera disponible après-demain pour les premiums. Et du coup, alors attendez, j'ai une question du coup de Motor Mike qui pouvait être intéressante et qui m'a du coup fait flancher. À quand l'ouverture des ludothèques médiathèques vers la musique et des albums cultes décortiqués à la Sœur de CDTech, par exemple? Bah, déjà, faudrait qu'on fasse des ouvrages sur la musique au global, on va dire, entre guillemets, parce que là, pour le moment, c'est encore assez thématisé. On fait des bouquins sur la musique de jeux vidéo. Mm-hmm. On peut faire des bouquins, peut-être, à l'avenir, sur la musique de film, je sais pas.
Je pense qu'on va en parler.
Mais c'est vrai que la musique au global, c'est pas quelque chose qu'on n'explore encore à 100%, on se l'exclut pas, mais donc du coup la collection médiathèque serait là pour ça, parce qu'il faut rappeler, c'est important, même si c'est pas forcément évident, que la collection médiathèque, en fait, c'est pour tout ce qu'il y a en dehors du jeu vidéo. Donc ça peut être la BD, l'animation, cinéma, série. C'est vrai qu'on a beaucoup du coup de manga et d'animé dans cette collection, ouais. Mais la collection médiathèque en fait s'ouvre à tout le reste. Donc si jamais on vient à faire plus d'ouvrages sur la musique, bien évidemment que du coup le format s'y prêterait. Que pensez-vous de l'intégration dans de futurs ouvrages d'illustration, schéma ou autres, comme Pierre Lovati a pu le faire dans son livre sur FF7 Remake? Je laisse Mehdi répondre parce que tu as été l'éditeur de ce bouquin.
Ouais, c'est vrai que Pierre, il a fait un super boulot sur FF7 Remake, sur son livre, sur sa construction, et il avait aussi à cœur en fait de rendre dynamique toute la mise en page. Donc c'est vraiment trop 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 bien, on est super content de ce bouquin. Mais c'est pas le seul, et ça fait quelques années maintenant en fait qu'on s'attache à mettre des surprises dans la mise en page. Ça, on peut remonter au livre sur Jojo, au livre sur Legacy of Kain, Peter Molyneux, Doctor Who, Harry Potter. On a vraiment beaucoup beaucoup de bouquins qui ont ce genre de gimmick en fait de mise en page. Évidemment là j'en oublie, mais c'est vrai que FF7 Remake là il a un petit peu plus marqué, parce qu'on est sorti du canon de plein de choses en fait. Ça en fait c'est des détails, mais qui vous ont, je pense, marqué. Mais c'est tout bête, au niveau de la police, des blancs, tout ça, ça a un peu changé, et je pense que ça vous a marqué. Livre dont vous êtes le héros, aussi, qui a pas mal changé au niveau de la mise en page. Donc, ouais, si ça vous plaît, en tout cas, ayez aussi un œil sur nos autres projets, et puis on va faire ça, alors pas systématiquement, nous, ce qu'on aime bien, c'est adapter, en fait, la mise en page au sujet.
Oui, voilà, faut que ça ait du sens par rapport au sujet traité, quoi.
Il faut que
c'est... C'est pas juste pour faire un gimmick, quoi.
Ouais, exactement.
Oui, par rapport au sujet traité, même par rapport au traitement du sujet, c'est-à-dire comment l'auteur lui-même envisage la chose. Souvent, ça peut venir d'une impulsion de l'auteur.
Ouais, mais c'est vrai que c'est cool. Enfin, il y a des auteurs qui arrivent aussi avec des idées autres que le texte et tout, et c'est cool quand ça nous apporte aussi nous de l'eau à notre moulin, parce que c'est vrai qu'on est, hors sans dire qu'on est dans une routine, mais on gère plusieurs projets en parallèle avec au moins une sortie par mois, donc c'est bien des fois d'avoir aussi qu'on nous apporte des idées, quoi.
Alors, Mehdi, tu l'as évoqué juste avant, parce que je pense que ça va tomber sur lui. Y a-t-il eu un livre dont le succès a dépassé vos attentes en 2023?
Ouais, c'est vrai. Bah, livre dont vous êtes le héros, qui est rentré dans la collection littérature, donc du prochain tremplin CERD. Surprise de par sa collection littérature, de l'engouement nostalgique qu'on aurait pu escompter, hein, vu en tout cas nous notre âge et notre passé avec ce genre de bouquin. Mais oui, il y a eu un plébiscite au niveau des librairies, sur notre site, la couverture collector, je pense qu'il a été faite bien en accord sur la nostalgie.
Même la classique, elle fonctionne grave.
La classique, elle fonctionne de ouf. Mais on y a eu aussi un concours de circonstances, hein, c'est-à-dire qu'on était en relation avec Gallimard, qui nous ont vraiment aidés depuis le début du projet, qui nous ont ouvert des interviews avec des éditeurs de chez Gallimard, quelques illustrations à la fin, un petit cahier couleur avec un papier différent.
Parce que c'est vrai que le livre dont vous êtes le héros, c'est une collection déposée, quoi. C'est pas c'est appartient à un éditeur, à Gallimard en l'occurrence.
Exactement. Ils nous ont donné le droit de mettre sur la couverture livre dont vous êtes le héros sur ce trademark là. Donc tout ça fait que le livre a été un succès quand même pas mal, et nous a plus ou moins étonnés, on l'espérait.
Oui, voilà, c'est ça, c'était pas une surprise dans le sens où on sentait et on espérait, en fait. C'est qu'on a vu que notre intuition s'était confirmée, quoi, et ça, c'est super cool. Mm-hmm. Après, il y a eu d'autres belles sorties dans l'année, évidemment, quoi.
Oui, bien sûr.
Je remonte un peu le chat, j'avais vu une question de Val tout à l'heure qui disait « Salut les gars, merci pour votre super boulot, vos bouquins sont chauds à trouver au Québec, mais on lâche rien ». Ouais, on sait que c'est galère hein, pour les Québécois.
Théoriquement, notre distributeur français s'occupe de gérer une infime partie pour le Québec et tout, mais bon.
C'est à la marge, c'est comme la Suisse, la Belgique.
Vraiment, voilà, je pense que, encore on dit, encore si les éditeurs québécois poussent un peu, font le push, ça peut peut-être améliorer les choses, mais c'est vrai que nous, on n'a pas tellement de moyens de jouer là-dessus, quoi. Mm-hmm.
Prochaine question. Est-ce que parfois vous vous forcez à publier un livre qui vous intéresse peu à titre personnel, mais dont la popularité du sujet vous encourage à mener le projet à bien?
Bah là, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a atteint, notre catalogue a atteint plus de 150 refs, je crois. Et notamment en jeu vidéo, où on a commencé, on a quand même un bon paquet de bouquins. Et fatalement, on arrive peut-être aussi au bout de nos délires perso. C'est vrai que, enfin, nous, quand on a commencé à faire les bouquins, on est allé sur les licences qui nous parlaient le plus, évidemment, genre Zelda, FF7, Metal Gear. Et donc là, oui, effectivement, on arrive au stade où on doit essayer de voir à travers notre prisme perso pour essayer d'imaginer ce qui peut fonctionner, ce qui peut plaire. Et essayer de se détacher de ça, quoi. Et forcément, il y a beaucoup, même aujourd'hui, déjà en jeu vidéo, moi, il y a beaucoup de bouquins qu'on a fait sur des trucs qui me parlent pas forcément, mais qui parlent à d'autres gens, quoi.
Yes. Est-ce qu'il y a des livres parmi les plus anciens que vous aimeriez réécrire car désormais trop obsolète dans son style ou sa structure?
Mais oui.
Tous.
Oui, non, mais après, c'est on va pas réécrire pour les auteurs, c'est plus pour nous. Par exemple, sur les livres qu'on a écrits, nous, je pense que c'est pareil pour vous, Mehdi et Nico, mais nos premiers ouvrages, bon, bah, ils répondaient à une envie, justement, de construire quelque chose, à un socle, le fameux socle création univers décryptage. Il y avait une approche qui était présente, donc qui a servi de fondement très important pour le reste de Sœurs d'édition. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on regarde un peu en arrière dans le rétroviseur, on se dit quand même, les livres d'aujourd'hui sont bien plus aboutis que ceux qu'on sortait à l'époque, ce qui est normal, ce qui est heureusement.
Oui, parce qu'on a appris sur le tas aussi.
Voilà, on a appris. Donc, dans l'absolu, ça serait réécrire l'histoire quelque part que de les refaire.
Ouais, puis, comme tu dis, je pense que ça nous dérange peut-être plus à nous que finalement les lecteurs parce qu'on voit.
Oui, c'est vrai qu'on réédite souvent nos premiers ouvrages et bon, les retours restent positifs, hein. Donc.
Et c'est vrai que souvent, ça rencontre en cas de réimpression quand on va rejeter un œil au livre de base ou même pour les traductions. Là, récemment, par exemple, on a fait Kickstarter pour traduire nos bouquins Last of Us et Uncharted, qui sont écrits les deux par Nicolas Denechaud, avec Bruno Provezza en plus sur Uncharted. Et je discutais avec Nicolas, et lui aussi disait, mais parce qu'Uncharted, il a écrit bien avant Last of Us, en fait, et que en le relisant, il disait, ah là là, il était un peu, voilà, il ressentait un petit peu les frissons de la gêne, parce que c'est un bouquin qu'il assumait moins aujourd'hui, mais comme on disait, c'est que sans ce Uncharted-là, il n'y aurait pas eu Last of Us, qui est Last of Us, un de nos meilleurs bouquins, qu'on recommande vraiment en tant qu'un peu modèle pour les futurs bouquins Sword. Donc voilà, on a tous appris sur le tas, nous, on s'est lancé en tant qu'auteur-éditeur avec Med, on n'avait pas, il n'y a pas de diplôme pour ça, donc, enfin, éditeur, si, en l'occurrence, et tu l'avais, mais. En tant qu'auteur, on apprend sur le tas aussi, et, enfin, faut pas renier le passé, parce que c'est ça qui nous mène à ce que nous sommes aujourd'hui, comme dirait un philosophe.
Mais tu vois, notre livre Zelda, je crois, a 15 ans, ou va avoir 15 ans, en tout cas, on s'en approche, et on s'interdit pas chez Sœurs, du coup, à travers une autre collection de livres qu'on a pu amorcer avec Le Monde selon FF, avec le livre sur le genre JRPG, qui sont des livres qui sont plus grands, avec des mises en page un petit peu différentes, on va même solliciter des illustrateurs pour faire les entrées de chapitres, ce genre de choses. On s'interdit vraiment pas, bah, de revisiter ces grandes sagas, comme Zelda, Final Fantasy, Metal Gear Solid, Dark Souls, Bloodborne, ce genre de choses, à travers cette nouvelle collection. Parce que, ben, déjà, notre livre, si on reste sur notre exemple de Zelda, ben, un bouquin qui a 15 ans, on a, nous, on aurait moyen de faire autre chose. Donc, imaginez le potentiel par un autre auteur. Et Zelda, c'est un potentiel qui est vraiment très, très grand. Donc, oui, il y a moyen que ces licences reviennent, quoi.
Et il y a autant de traitements potentiels sur un sujet que d'auteurs, en fait. On sait que chaque auteur va avoir son angle d'analyse et on voit même des bouquins Zelda sur le marché français. Il y en a un paquet maintenant, hein, que ce soit chez Omake, chez Geeksline ou chez Pix aussi. Et en fait, on voit qu'on a tous traité le sujet de manière un peu différente. Hein, donc, il y a de quoi faire, quoi.
Sur la question, justement, de création univers décryptage, on est plus souple là-dessus quand même depuis plusieurs années. Il y a encore des livres qui gardent cette structure et qui fonctionnent très,
oui,
très bien.
Oui, mais enfin, ça, on n'a jamais imposé une structure rigide. C'est les informations qu'on réclamait. Et ça reste d'actualité aujourd'hui. C'est plus que, je pense qu'on est plus attentif sur la forme, en fait. Peut-être qu'on l'a été à l'époque. Mais le fond a toujours été prépondérant, quoi.
Prochaine question. Depuis 9 ans, il n'y a pas une sorte de lassitude ou des moments de doute sur la ligne édito?
Alors non, pas du tout. Et je pense que tout à l'heure, Nico parlait de la collection The Art Of sur les jeux indés, mais c'est une réponse qu'on va pouvoir vous donner plusieurs fois parce que cette collection, elle est hyper enrichissante, elle est galvanisante même parfois parce qu'elle nous met en relation avec des studios, sur des relations longues, très longues, où on est plusieurs années en parallèle sur la création d'un jeu. Donc on a pas que ces livres qui sont sur un seul sujet, une seule saga, on a plusieurs collections et à chaque fois c'est des retours à zéro quoi. C'est qu'on on reapprend à travailler différemment avec ce nouveau studio et puis même dans l'absolu c'est vrai ce que je dis avec chaque nouveau projet, on a un nouvel auteur avec une nouvelle saga. Donc même si la forme est quelque peu la même sur ce que vous voyez, un livre en noir et blanc sur une seule saga, pour nous derrière en coulisses, c'est complètement différent à chaque fois, quoi.
Ouais, puis il y a une routine fatalement, parce que quand tu sors au moins un livre par mois, ben, t'as des process qui reviennent de manière régulière.
Sur la poussière, process, c'est vrai. Ouais.
Mais il y a pas d'ennui, en tout cas, je parle en mon nom, hein. Et on parlait, voilà, de littérature qu'on essaie d'étoffer, la collection, on parle peut-être de musique demain aussi, enfin, on voit qu'on a encore une marge de progression et, enfin, nous, je pense qu'on est chez Sœur, tous les gens qui bossent chez Sœur, au moins des gens curieux et avides d'aller explorer aussi d'autres sujets. Et je pense que rien que pour ça, le boulot, c'est quelque chose qui peut faire plaisir, quoi, d'aller. Enfin, nous, quand on bosse avec un auteur sur un sujet, on apprend aussi énormément et on découvre. Donc, ça permet d'ouvrir le prisme de plus en plus, quoi.
Y a-t-il un projet qui traîne toujours dans les tiroirs depuis 9 ans, Mehdi?
Ah oui, c'est bon, qui doit répondre à ça?
Ouais.
Je crois pas qu'il y a un projet qui traîne en particulier depuis 9 ans.
Genre on a réfléchi vite fait, non, on voit pas, non.
Non.
Il y en a depuis 3-4 ans, mais...
oui, qui vont arriver, mais ouais, non, je crois pas qu'il y ait...
Ouais, est-ce qu'on voulait pas peut-être parler aussi du côté concept store librairie qu'on a déjà mentionné?
Ah, c'est ça, j'arrivais pas, là je fais mais... Qu'est-ce que je voulais répondre à ça?
Moi j'ai ça aussi.
Ouais, mais c'est ça, ah, ben, okay. Nickel. Ouais. Oui, ben on a des projets, mais c'est parce qu'en fait je cherchais tout le temps les livres, moi je fais mais attends, mais il y a pas de projet qui... Mais on a des trucs en tête depuis 9 ans, c'est vrai... Comme bah, cette librairie concept store Sœur qu'on a toujours évoqué et qui n'est pas encore en projet mais qui quand même reste au fond de notre tête, et on a aussi des ouvertures au niveau éditorial qui sont possibles et qui sont elles un petit peu plus proches. Ken en a parlé tout à l'heure, la musique, mais la musique au sens large, c'est-à-dire que pas uniquement la musique de film ou la musique de jeux vidéo, la musique des bouquins analytiques sur des sons, des groupes. Pourquoi pas, ça nous plaît. Le sport, on y pense aussi. Et la fiction. C'est vrai que Sœur qui fait de la fiction, on nous en a souvent parlé. Et ça se rapproche. En tout cas, nous, ça se rapproche dans nos têtes, dans nos envies. Et si on se lance, ça serait pas simplement pour faire des romans ou ce genre de trucs. C'est, on aimerait quand même apporter notre patte aussi, que ça soit bah, dans la vision de la fabrication, les bouquins qui sont un petit peu différents de ce que vous voyez en librairie, le choix des auteurs, les histoires. Ça serait tout, quoi. Ça serait nous apporter notre patte à nous, quoi.
Yes. Alors Gugig dans le chat nous demande est-ce que vous avez déjà parlé de comment le partenariat avec les auteurs s'effectue, c'est eux qui viennent à vous ou vous qui avez un projet de livre et qui cherchez la bonne personne? Alors oui, on en a déjà parlé dans je crois au moins deux autres FAQ, ouais. Mais on peut te répondre vite fait. Et en fait ce qui est marrant c'est que la tendance s'est drastiquement inversée. C'est que moi je me rappelle que tout début de Sœur, puis même au bout de genre je crois encore 3-4 ans, voire même encore quand j'étais là, donc depuis 5 ans, c'était beaucoup plus l'inverse, c'est-à-dire que c'était plus les éditeurs qui contactaient des auteurs potentiels en disant ah bah tiens, on pense que tu serais chaud pour tel bouquin, est-ce que tu serais partant pour tenter quelque chose, etc. Aujourd'hui on reçoit beaucoup de manuscrits, je sais pas, on en reçoit peut-être quoi 3 par semaine.
Ouais.
Ce qui est beaucoup hein, en vrai, 3 par semaine, parce qu'après du coup c'est des manuscrits qui sont assez riches, il y a pas tout le livre bien entendu, mais il y a un plan, il y a un extrait, il faut qu'on y réfléchisse, etc. Et donc ouais, aujourd'hui il y a pas mal de nos bouquins qui sont partis d'une proposition qui venait totalement de l'extérieur. Après il y a encore bien sûr des bouquins où c'est nous qui contactons un auteur potentiel en lui disant hey, est-ce que tu serais chaud pour faire ça quoi.
Mais heureusement que le rapport de force s'est inversé, ça veut dire qu'on commence aussi à se faire connaître et que on devient un client potentiel pour justement quelqu'un qui a une idée en tête, se dit bah tiens je vais aller voir Sœur. Ouais. Alors, on n'est pas les seuls évidemment, mais tant mieux, parce que c'est vrai que nous aussi, on arrive peut-être au bout des gens qu'on connaît ou qu'on suit à droite à gauche.
Prochaine question, pour les 8 ans, on a eu les ludothèques 1, 2 et 3 en réimpression. 4, 5, 6 pour les 9 ans. Eh ben, je ne sais pas qui tu es, mais tu as vu juste dans le passé, puisque, en effet, donc vous êtes peut-être pas au courant. Attendez, je crois que j'ai une slide pour ça. Tac. Et non, ce n'est pas la bonne. Peut-être celle-ci, c'est la bonne. Voilà. Donc du coup, depuis le 26 février et jusqu'à mardi soir, hein, donc c'est marqué 6 mars sur le visuel, mais ça s'arrête le 5 mars au soir, quoi, en fait. Vous pouvez précommander les ludothèques 4, 5 et 6, donc respectivement sur Beyond Good and Evil de Motor Mike qui est dans le chat, de Rez, de Virginie Nebia, que vous connaissez sûrement mieux sous le nom de Morolian, et Snatcher et Police Note qui a été écrit par Mehdi des Babys Ourgani. Donc, comme pour la première campagne Ultime Rattrapage où on avait fait le 1, le 2 et le 3, la période de précommande, c'est la période durant laquelle vous pouvez vous les procurer. Donc du coup, ne tardez pas là si jamais vous êtes chaud, si vous apprenez ça avec la FAQ. Comme on vous l'avait dit l'année dernière, on n'exclut pas d'avoir un petit reliquat de stock parce qu'on imprime toujours un petit peu plus, ne serait-ce que pour des besoins de SAV. Et si c'était le cas, du coup, on les mettrait en vente sur le site. Mais partez du principe qu'il y en aura pas beaucoup, hein, des reliquats de stock. Donc, si jamais vous êtes chaud pour ces trois ludothèques 4, 5, 6, n'hésitez pas. Vous les précommandez. Donc, ils sont pas encore produits parce que du coup, nous, on attend de voir à peu près la demande et on s'adapte en fonction. C'est pour ça que je vous dis qu'il y aura pas forcément beaucoup de plus au niveau du stock. Et donc, pour le moment, on vise mai. Bon, comme l'année dernière, en fait, hein, quand vous aviez précommandé les ludothèques 1, 2 et 3, on vise mai pour les envoyer. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, ne tardez pas. Et puis, mine de rien, enfin, le succès de cette campagne influe aussi sur nos décisions futures. L'année dernière, quand vous nous aviez posé la question, vous avez dit, bah là, ça se profile plutôt bien, on va peut-être continuer. On a hésité un petit peu, mais on a quand même décidé de partir sur 4, 5, 6. Et voilà, pareil, hein, selon le succès de la campagne 4, 5, 6, on verra si on fera 7, 8 et 9. Je ne vous cache pas qu'une campagne 7, 8, 9 m'arrangerait, puisqu'il y a mon livre sur Street of Rage, qui est le numéro 7. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prochaine question. Avez-vous pensé à vous intéresser à la BD franco-belge?
Oui, nous avons pensé à nous y intéresser. Mais c'est vrai que je parle même peut-être pour tout le monde aussi. On est peut-être plus des lecteurs de manga et de comics au global que de franco-belge.
C'est vrai.
Même si. Mais c'est un sujet tout aussi passionnant. Donc, comme on connaît moins, peut-être qu'on y est moins allé naturellement. Mais carrément, on y pense grave. Il y a plein de sujets potentiels qui pourraient faire le taf.
Et sur le site, ouais, on a noté à dessin de BD et animation. Ouais. Ça, on voulait que ça comprenne comics, manga et la BD franco-belge. Même si on a à ce jour pas encore de publié de livres sur...
Ouais, je crois même pas qu'on a de sujet dans les tuyaux encore. Mais,
non, mais on a toujours on l'a toujours eu en tête. C'est des envies. Après, ce qui est le plus compliqué dans notre métier, c'est pas tant trouver des sujets, hein, c'est trouver des auteurs.
Voilà, donc si vous êtes passionné par une saga de BD franco-belge et que vous avez envie d'écrire dessus, contactez-nous et on en discutera avec plaisir.
Quoi. Et vous avez le sujet du tremplin 2026 en passant. Voilà, petit cheat code si vous voulez prendre.
Pourquoi pas? Avec plein de billets de banque, là.
Est-ce que vous avez déjà annulé un projet plus ou moins avancé en voyant un éditeur concurrent sortir un livre sur le même thème? Et le corollaire, parlez-vous de vos projets à vos concurrents, pardon, pour éviter cela?
Annulé, carrément.
Ah oui. Ouais, genre, oh non, il sort un livre sur ça, je ne le fais plus.
Annulé, non. Après, on a remarqué en cours de production que l'un de nos confrères, allez, pas concurrent, allait sortir un bouquin sur le même sujet. On a pu se dire, bon, bah, il le sort en premier, on le sort en premier, mais sans pour autant se concerter. À ce jour, c'est fini. C'est-à-dire que nous, maintenant, on a notre planning, on a nos envies, et puis c'est notre planning qui va vraiment dicter la chose. Là où fut un temps, peut-être qu'on était un peu plus attentif à ce que faisaient les autres. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et la seconde question, c'est est-ce qu'on se concerte ? Non, pas du tout. On se connaît tous, très bien. Mais on n'a pas de Discord similaire où on est tous ensemble.
Ouais, parce que c'est vrai que même si on reste, ça reste très amical et tout, ça, on reste quand même concurrents aussi, donc on va pas se balancer nos dossiers, nos cartouches.
Ouais, au Japan Expo, ce genre de choses. Mais je sais que les éditeurs de manga, eux, sont plus, ils se rassemblent plus parce qu'ils ont, ils sont moins dans une logique, on va dire, de production. C'est qu'ils sont tous ensemble, par exemple, à racheter des licences. Tous les éditeurs de manga, il y en a très très peu qui produisent des mangas avec des mangaka. Il y a peut-être que Kiyun, il y en a deux, trois autres, mais c'est vraiment pas beaucoup. Là où nous, on est dans la 95% de nos livres sont de la production pure. Donc, c'est vrai qu'on a moins à se discuter de, tiens, moi, je vais me placer sur cette licence, etc., oui. etc., quoi.
Après, il y a des sujets, ils sont dans l'air, hein. C'est comme ça.
Oui, c'est comme ça.
Il y a l'actu qui dicte aussi des choix. Donc, fatalement, on arrive à des moments où, il y a un embouteillage. Genre, je sais pas, je crois pas que c'est jamais arrivé qu'on sorte le même mois, genre, même sujet.
Non, ça, c'est jamais arrivé.
Il y a toujours un petit décalage. Donc après, voilà, ceux qui préfèrent la façon Sœur, ils achètent du Sœur. Ceux qui préfèrent la façon d'autres bouquins.
Witcher en était sorti.
Ouais.
Il y a eu un décalage. Witcher
il y a eu un décalage
sorti avant.
Un petit décalage, ouais. Après, dans tous les cas, ce qui est aussi intéressant, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec différentes maisons d'édition qui traitent de différents sujets, c'est que, on a tous notre façon d'aborder des œuvres. Donc, du coup, Même si, vu de loin, je pense qu'on connaît, quand on connaît pas trop les maisons d'édition, on doit se dire, bon, bah, ça parle à peu près la même chose. Je pense que pour les gens qui connaissent un peu, bah, nos différents concurrents, Sœur de Pix, Omake, et qui nous connaissent aussi, vous savez que, bah, sur un sujet, vous allez avoir trois points de vue, ouais, assez différents, pour traiter une œuvre. Donc, du coup, vu comme ça, on se cannibalise pas trop trop. Après, c'est vrai qu'aux yeux du grand public qui nous connaît pas forcément, je pense que quelqu'un qui connaît aucune des trois maisons d'édition, il arrive dans un rayon, je pense qu'il fait plouf plouf, lequel a la plus belle couve, quoi, en gros. Ouais.
Donc c'est nous.
Alors, juste une petite annonce pour le chat. On arrive bientôt à la catégorie wishlist. Donc, calmez-vous. Si jamais vous voulez déjà balancer des trucs, je les garde en tête. J'en ai vu deux, trois passer. N'hésitez pas. On a une dernière question sur la maison d'édition qui est une question fort intéressante. Un abonnement au livre Sœurd serait-il une bonne idée? Votre cadence de sortie le permettrait et cela pourrait encore plus fidéliser vos lecteurs ainsi que d'assurer des ventes. Beaucoup de lecteurs ont découvert des sagas en voyant vos sorties et s'y sont intéressés. Par exemple, Nier pour mon cas et Death Stranding. Une confiance envers votre proposition s'est donc installée et cela vous permet de recommander des œuvres. Un abonnement irait dans ce sens pour proposer des choses nouvelles et inédites à votre base de lecteurs. Ce n'est pas une question, c'est un plaidoyer. Mais c'est très intéressant.
Je pense que la question est plus intéressante que la réponse qu'on va apporter. Parce que, on y a pensé. Peut-être, tu vois, quand toute la mode des abonnements, tout le monde s'y est mis, quand on a commencé à découvrir Netflix, qui a commencé à avoir le Game Pass, que même Sony a dit, mais nous aussi, on a le PlayStation Plus. Alors que bon, c'est pas tant un catalogue que ça. On y a pensé, mais on n'a pas trouvé de solution adéquate ou avantageuse pour vous, pour nous. Mais c'est vrai, enfin, je la comprends la question. Tu vois, c'est tellement dans l'air du temps. C'est tellement.
Presque avec le prix unique du livre, c'est pas.
C'est que oui, le but de l'abonnement en général, c'est de payer moins cher que si t'achetais tout au cas par cas. Mais nous, voilà, avec la loi sur le prix unique du livre, on peut pas faire des ce genre de réduc. Et puis, je trouve, on a un catalogue qui est tellement diversifié aujourd'hui.
Ouais.
Un mec qui s'abonne pour du jeu vidéo, ben, bah, il va recevoir des bouquins manga ou littérature, peut-être qu'il s'en fout, quoi.
Ouais, mais c'est pour l'ouvrir à sa curiosité.
Ouais. Je pense là où on avait le plus réfléchi, c'était un abonnement potentiel sur les e-books, mais pareil, c'est les mêmes problèmes se posaient, donc, non.
Ouais. Mais c'est vrai que, ouais, on a quand même un lectorat qui est de plus en plus diversifié.
Ouais, ouais.
Je me rappelle pour la petite anecdote que je crois que c'était au Black Friday dernier. On avait fait un Black Friday RPG. Et quelqu'un nous a enragé par message en disant « Ouais, mais moi, je m'en branle des RPG. » Vous pouvez pas faire des réductions sur autre chose. Donc, c'est vrai que enfin c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que, mine de rien, ouais, le lectorat, il a vachement évolué et qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, consomment du Sœurd uniquement pour le cinéma, par exemple, et tout le pan jeu vidéo, ça leur passe un petit peu au-dessus. C'est assez marrant.
Ouais, mais tu vois, l'un des plus beaux compliments qu'on peut nous faire, c'est « Ah, vous m'avez redonné le goût à lecture ou donné goût à lecture. » Mais c'est un autre bon compliment qu'on peut nous faire quand on nous dit bah vous nous avez fait découvrir cette œuvre juste parce que il y a un livre Sœurd qui est sorti par habitude ou par envie ou parce que vous nous faites confiance sur nos choix, bah vous avez acheté le bouquin, vous avez finalement aimé et puis découvert l'œuvre par rebond. C'est aussi stylé, je trouve.
Ouais, c'est stylé de fou. Nous y sommes. C'est l'heure de la wishlist. Alors là, du coup, bah vous nous avez proposé des sujets de bouquins. Et là, on va vous dire oui ou non. Des fois, ça peut être très laconique. Hein. Soyez pas frustrés, c'est la vie.
Décevez les indices.
Est-ce qu'on peut juste évacuer le sujet Bubsy dès maintenant?
Oui, c'est vrai.
Non, mais est-ce que vous savez, c'est né où, ça?
Alors, c'est une vanne du Discord. Hein, Discord, je sais pas comment c'est né, ni où c'est né, mais...
Parce que sachant, mais un Bubsy, s'il y a un nouveau, moi, je suis chaud, hein, mais pour de vrai. Peut-être pas faire un bouquin, livre, mais... Non. Non, un livre, non, mais je vous en parlerai...
Podcast.
C'est sûr, mais ouais, petit platformer 3D, quoi. Y a quoi?
C'est vrai qu'il y a une vraie Bubsy Defense Force sur le Discord de Sœurd, qui nous fait beaucoup rire à chaque fois.
Oui, on passe le big up à Murray, qui est sûrement le plus gros forceur de la bande.
Oui, c'est vrai. Alors...
Un livre sur Magic the Gathering. Ludo?
Bah, tout ce que je peux dire, c'est qu'on a un auteur récurrent qui est très fan de Magic.
Ok. Voilà. Donc, il a déjà écrit pour nous et il aime bien Magic.
Je me demande ce que ça veut dire.
Voilà, voilà.
Qu'est-ce que ça veut
ça
dire?
Ça tombe bien, ça, dit donc. Un nouveau livre, The Art of, est-il dans les cartons?
Alors, on a au moins deux Art of qui sont signés, si j'ai pas de bêtises. Mais voilà, signés, vous savez ce que ça veut pas dire forcément sortie immédiate, c'est long. Et il y en a plusieurs d'autres dans les tuyaux, donc voilà, au moins deux qui sont signés, c'est sûr.
Ouais. Ok. J'en profite, je rebondis sur ce que j'avais vu dans le chat. Je sais plus qui c'était. On avait demandé Sword Art Online.
Alors.
En Art of?
Bouquin wishlist.
Mais non aussi. Ouais.
Et il y a une grosse commu, hein, Sword Art Online. Nous, c'est pas du tout notre délire.
Ouais, mais c'est vrai que des fois, en fait, on passe à côté de trucs parce que c'est pas notre délire, mais c'est vrai que.
En général, s'il y a online dans le nom, c'est pas trop notre délire.
Alors attends, j'ai un truc de Riff en Piscine intéressant. Une box avec des livres sur différents points de la pop culture pour offrir en cadeau. Ah. Des box cadeaux.
Ouais.
On te vole cette idée.
Voilà. Franchement, c'est une bonne idée pour Noël.
Comme les make-up et tout, genre t'achètes sans savoir ce que c'est. Comme t'as ta box avec trois livres pop culture, tu sais pas y a quoi dedans.
Ah, ouais. Carrément, ça serait la box surprise.
Bah ouais, c'est comme Quick quand ils font les burgers mystères et tout. Quoi.
Après, tu peux faire surprise thématique. Surprise ciné, surprise jeux vidéo.
Ouais, pour offrir, ça serait un bon bail. Ça. Merci.
Surprise littérature, mais il y a que les deux livres de littérature qu'on a sortis.
On en a plus de deux, voyons.
Eh oui, enfin.
On a au moins 4 ou 5.
Oui, oui.
Il y aura la box Damien Méchery, peut-être. Pour les grands-mères. Pour offrir aux grands-mères.
Avec le Funko Pop.
Gugig nous demande, là, vite fait, un livre sur la saga Xenoblade, Damien.
Oui, on l'avait déjà annoncé, effectivement, la dernière FAQ. Il est bien en cours de production, en cours d'écriture, il est même bien avancé, voilà. Je crois que la question demandait s'il sortait cette année, non?
Et ouais, parce qu'on nous pose la question un peu plus tard. Hein.
C'était posé là.
Ah, je l'avais dans la liste.
Xenoblade, donc j'en profite.
Ah oui, c'est vrai.
Pour y répondre en même temps, donc est-ce qu'il sortira cette année? Non. Mais vous n'aurez pas longtemps à attendre l'année prochaine, je pense.
Qu'est-ce que t'as cassé, Damien?
Il touche le bitonio tout le temps.
Ah, toujours, il fait des bêtises avec
mains sur le. Si vous voyez les mains de Damien en dessous de la table, vous le dites.
Dénoncez-le. Dénoncez-nous.
Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux dans les coulisses 2 comme pour Devolver?
C'est une très très bonne question. C'est fort probable, mais peut-être pas sous cette forme ultra illustrée, tout ça, mais les coulisses de beaux studios, ça va arriver.
Et dites-vous que Devolver, c'était un cas unique, hein. C'est un éditeur qui émerge, qui a vraiment une identité forte et qui nous ouvre les portes, mais de manière complètement, totale et sans rien demander en retour. Enfin, c'est très très rare, ça arrivera pas de si tôt, mais effectivement, si on peut essayer de prolonger dans d'autres domaines.
Quand on parle des astres qui s'alignent, là, c'est un exemple assez frappant.
Ouais, et puis même maintenant, je suis pas sûr, maintenant qu'ils sont en bourse et tout, que ça serait possible aujourd'hui, en fait.
C'est clair.
Prochaine question. Alors. La même question à chaque FAQ. Bon, déjà, lui, il est un peu saoulé. Tu vois, ça fait un moment qu'il fait sa wishlist, personne ne l'écoute.
Oui, mais il aura peut-être des bonnes nouvelles.
Ouais. Le bouquin sur Togashi, il arrive?
Oui.
Oh.
Il arrive et très très vite.
Voilà.
Il est très très long aussi.
Il y aura peut-être même une exclue, un event.
Oh. Ah. Et un livre sur Lovecraft, c'est envisageable?
Oui. Oui, oui, c'est envisageable.
Ok, très bien, c'est envisageable.
Indice avec le tremplin. De cet été.
Il était pas sur le visuel.
Non, mais
Oh, je t'ai perturbé, mais c'est une bonne.
Attends.
C'est toujours le moment où on sait pas ce qu'on a
fait. Si vous voulez écrire sur Lovecraft, ne le faites pas, quoi.
Ouais, voilà. Tu as sauvé peut-être. Voilà. Là, t'as un mec depuis tout à l'heure qui a déjà ouvert Wikipédia. Moi, c'est bon, je me lance.
Vous voyez ce que
je veux dire?
Pas dedans, effectivement.
Voilà. Voilà. Épargnez-vous, Lovecraft.
Comptez-vous faire l'histoire de la PlayStation 1 et de la PlayStation 2?
On aimerait.
Oui.
Bah oui, parce que... Bah oui. Notre collection Retro Gaming, c'est top, hein, avec une belle collection, avec des couvertures correspondantes et tout. C'est pas prévu, mais oui.
On aimerait bien.
Un livre IS.
Alors tout à l'heure...
Mais de répondre.
Tout à l'heure, on dit les trois d'un coup. Hein. Tu sais, il y a IS, Legend of Heroes...
Et un dernier sur les tactiques.
Et un dernier sur les tactical, en règle générale. On sait qu'on a un public qui est acquis sur le JRPG et on cherche actuellement les limites de ce public. C'est est-ce que
à
SMT vous êtes là et en fait on est en train de voir jusqu'où on peut aller et même en interne nous on se demande voilà est-ce que IS ça a une capacité, est-ce que Legend of Heroes ça a une capacité pour un bouquin. Évidemment dans le contenu et dans ce qu'il raconte c'est oui mais c'est après il faut
le
livre se vende. Pour nous, pour l'auteur aussi, un travail de plusieurs mois, plusieurs années, qui conclut un livre qui fonctionne pas, c'est triste pour tous parce que c'est beaucoup de temps et beaucoup d'investissement moral. Donc, quand on décide de pas faire un bouquin, c'est pas que parce qu'on pense qu'il va pas se vendre, parce que c'est important pour tout le monde, quoi.
Et il faut savoir que même on en débat, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément d'accord aussi. Et il y a des bouquins où c'est peut-être trop tôt ou pas. Enfin, on voit que ça évolue aussi avec le temps, quoi. C'est-à-dire que sort à 9 ans aujourd'hui, il y a des bouquins qu'on n'aurait jamais fait il y a 9 ans qu'aujourd'hui on va peut-être faire. Et ça va évoluer aussi avec le temps et la marge de lecteur qui augmente aussi.
Yes. Ok. Oh, une question. La légende de FF Tactics.
Ludo.
Ludo.
Je vais répondre.
Allez, voilà. Réponds donc.
Allez. Alors, il faut savoir que FF Tactics, en fait, ça fait partie de l'univers d'Ivalice de Yasumi Matsuno. Et du coup, on l'a déjà analysé dans notre livre La légende FF12 et Ivalice. qui est un de nos livres les plus anciens et qui a longtemps été en rupture de stock là. Donc je peux annoncer que ce livre va être réimprimé, il arrive au mois de mai, mais il est un petit peu modifié. Donc avant le livre en fait il était énorme, il fait plus de 400 pages, c'est un énorme pavé, parce qu'il comportait aussi Vagrant Story, donc qui est en fait un petit peu à part, d'ailleurs Matsuno a même dit qu'en vérité ça faisait pas partie d'Ivalis, donc on a décidé de retirer la partie Vagrant afin de rendre le livre FF12 du coup un petit peu plus léger et donc moins cher. Et deuxième annonce, bah Vagrant Story va arriver aussi, mais à part, ça va être un vrai livre Vagrant qui va être écrit par Rémi Lopez, donc qui est le même auteur que pour La Légende FF12. Il arrive lui aussi au mois de mai. Et il faut savoir que le texte qui concerne Vagrant, maintenant, il est 5 fois plus gros que dans la version originale du livre FF12.
Source. L'auteur a dit 10 fois plus gros.
Ouais. Entre 7 et 10, c'est énorme. Hein.
C'est 5 fois.
Voilà, donc du coup, double annonce hein, pour le mois de mai, vous allez avoir du coup le retour de La Légende Final Fantasy XII et Dans les Ténèbres de Vagrant Story qui seront disponibles sur notre site et en librairie.
Ça va faire plaisir à plein de monde, parce qu'FF12, on nous l'a réclamé souvent,
c'est
et
vrai.
Même très récemment encore, hein, on nous en parlait.
Et il est moins cher, c'est-à-dire que
cher.
Là, on garde pas nos prix, on les baisse.
une autre question, un livre sur Metroid.
Damien.
C'est en cours.
Oh,
très bien. Un bouquin sur Monster Hunter.
Alors, on a mis Ken Bruno, je pense, répond
oui.
À la question.
Bonjour, je suis le représentant de Capcom.
C'est un peu ta spécialité.
Voilà. Monster Hunter, on aimerait beaucoup parce que bah mine de rien, il y a le public. Je crois que c'est la licence la plus porteuse de chez Capcom, si je dis pas de bêtises. Donc oui, on aimerait beaucoup, mais il faut du coup qu'on puisse trouver quelqu'un qui a les épaules pour assumer un tel projet, parce que c'est quand même une licence qui s'étend sur 20 ans. Je pense que Monster
Hunter... C'est à chaque fois le même jeu, donc ça va.
Tu restes tranquille, Damien Méchery. Je pense que le problème de Monster Hunter, c'est que les gens qui sont passionnés par Monster Hunter, ils sont passionnés par les systèmes, et on peut vite tomber dans le même écueil que avec les MMORPG.
Ouais.
C'est difficile de sortir de ce truc du « ah bah telle classe, elle a tel machin et tout », donc c'est pas forcément ce qu'on recherche nous, même si c'est un truc qui est forcément abordé. Donc ouais, c'est pas facile, donc on cherche quelqu'un qui serait capable de parler de Monster Hunter, mais on n'a pas encore trouvé pour le moment. D'ailleurs, on l'avait mis dans les visuels du tremplin Grande Saga du jeu vidéo.
Notre piège n'a pas fonctionné.
Et oui, ça n'a pas fonctionné. Je sais plus si on a vu des projets Monster Hunter ou pas.
Pas dans le tremplin, je crois.
Pas dans le tremplin, ok.
Mais typiquement, ça c'est parti, c'est un genre de bouquin il y a 5 ans qu'on aurait peut-être jamais fait, quoi. Mais entre temps, la série a pris aussi de l'ampleur, a explosé avec le Monster Hunter World. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît plus crédible de sortir un bouquin sur le sujet.
On n'a pas beaucoup de bouquins sur les jeux Capcom.
Bah écoute, oui.
Est-ce vrai. Qu'on devrait pas annuler le tremplin littérature et faire un tremplin Capcom?
Mais moi je suis chaud, hein. Megaman,
je pense que c'est... Megaman, Dragon's Dogma.
Bah oui. Dragon's Dogma.
Un petit ludothèque sur Ghost Trick. On est chaud. Je suis en train de lancer des trucs là. J'assumerai plus tard. Elden Ring doit être dans les tuyaux.
Il est carrément dans les tuyaux, Elden Ring, mais comme on l'a déjà dit quelques fois, en fait, on attendait la sortie du DLC pour l'intégrer dedans, pour avoir le livre le plus complet possible. Donc voilà, sachez que c'est en cours, que ça avance bien, et surtout, bah, restez à l'écoute de notre actualité,
de nous.
Il peut y avoir des choses à ce sujet prochainement.
Dans le chat, j'ai Max qui nous disait un livre sur Fire Emblem. Ludo, t'as envie de répondre à cette question ?
Peut-être que quelque chose arrive.
D'accord, très bien, peut-être. J'ai Nico Miel qui demande un livre sur les jeux de Suda Goichi.
Peut-être que quelque chose...
J'allais dire, vous êtes pas prêt.
Vous êtes carrément pas prêt.
J'avais une question tout à l'heure sur est-ce que vous faites des livres que vos concurrents ont déjà fait.
Oui, c'est vrai.
On vous a dit qu'on...
Qu'on faisait des meilleurs coups aussi.
Non mais que ça nous... on s'en souciait peu, quoi.
Oui.
On en est où des MMO Final Fantasy ? Ludo ?
Alors, Ludo, on le suit tout le temps.
Alors, FF11, pas encore, mais FF14, bon, FF14, c'est un gros dossier, donc ça prend du temps, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver.
Très bien. Est-ce qu'un nouvel ouvrage sur Disney est prévu, Damien ?
Eh bien, oui, effectivement, Jessie se remet au travail après. Elle a eu plusieurs projets après la sortie du volume 1.
Lâche ce bitonio, Damien.
Voilà, elle va effectivement préparer le volume 2. Donc c'est pas pour tout de suite, mais ça arrivera.
Ok, très bien. Est-ce que d'autres livres traitant de littérature sont prévus prochainement? Bah du coup,
faire tremblin. On part sur vous. Voilà.
Mais si. En plus, oui, on en a déjà un petit peu, mais oui, le tremplin va aider.
Exactement. Comme vous avez pu le faire pour Street Fighter, peut-on espérer voir un livre arriver sur la saga Tekken?
C'est bien Tekken ou pas?
Alors, la partie univers d'un bouquin Tekken, je la lis 12 fois. Ça doit être vraiment un délire à lire, ça doit être génial. Que dire, hein.
Les jeux de baston, c'est pas évident à traiter. Et c'est vrai que Street Fighter, on a profité d'une occasion, en fait. Donc c'est la trad d'un livre en anglais où les mecs ont interviewé, je sais pas, plus de 40 ou 60 personnes impliquées, ouais, plus ou moins dans la licence. Donc ça, c'était inespéré, quoi. Donc Tekken, à moins qu'on nous sorte un projet similaire, oh, c'est vrai que c'est pas évident, la baston. Hein.
Bah, je pense que c'est un peu comme ce que je disais pour les MMO. Encore une fois, les gens qui kiffent de fou les jeux de combat, c'est des gens qui sont à fond sur les systèmes, les frame data et j'en passe. Ouais. Et tu vas pas parler de frame data dans un bouquin, c'est pas très passionnant.
C'est vrai.
Mais la partie univers d'un bouquin Tekken, quand même. ok, j'ai fini une feuille.
On appellera ça aller-retour autour d'un volcan.
Voilà.
Les allées venues de Tekken.
Est-ce que le livre, alors ça on y a déjà répondu du coup, mais je vois Tetril qui évoquait la chose, donc oui, hein, du coup le livre sur la trilogie Xenoblade, il est commencé et il sortira pas cette année, mais comme l'a dit Damien, vous n'aurez pas à attendre très longtemps après la fin de l'année pour le voir.
Oui, c'est clair.
Débouler. J'ai une question de Dakeras dans le chat qui dit, et un livre sur Lost avec 3 S.
Oh, oui. avec 3 I. Ouais, non, bah, je crois que peut-être. Ça fait 3 FAQ qu'on dit, enfin, moi, que je dis, je suis fan, j'adore et on aimerait beaucoup. Mais là, on peut le dire de manière encore plus assurée.
Vous voyez le temps que ça met de faire un livre.
Oui, voilà.
S'il faut 3 FAQ pour dire, ça arrive.
Wang Nguyen nous demande un livre de recettes de cuisine de tous les plats mythiques du JV.
Alors, c'était notre poisson d'avril de l'an dernier, je crois, ça.
Ouais.
Bah, je pense qu'on n'est pas forcément à la team des cordons bleus, non? Même non, si Damien va essayer même de dire que oui, lui.
Ouais. De fou!
Mais bon, on l'a vu faire, c'est pas le cas, donc vous enflammez pas.
Ludo
cuisine. Ouais, quand même.
Ludo. Les faritas de Ludo.
Ouais.
Mais c'est attendez, un peu hors.
Je vous fais un truc qui tue, là, la prochaine Japan.
On a hâte. En fait, on a hâte de la Japan Expo juste pour manger ce que Ludo va nous préparer.
Mais ça serait peut-être un peu hors ligne édito. C'est vrai qu'on en a fait un poisson d'avril. Je pense pas que ça ira beaucoup plus loin, même si c'est quelque chose qui est extrêmement fructueux.
C'est devenu un délire.
Il y a absolument des livres de cuisine et de tout.
Ouais. Peut-être trop des fois, parce qu'on a vu des trucs.
La cuisine de Netflix.
Ouais.
C'est vrai.
Ouais.
Il y a un cookbook Alien aussi, genre, est-ce que ça te donne faim, Alien, quoi.
Jamais. Mais ça cartonne de fou, mais ça n'arrivera pas chez nous.
Ok. Peut-on espérer une réédition du livre sur BioShock et de celui sur Skyrim?
Alors, il y a une partie de nos livres qui tombe en rupture, donc les éditions classiques, c'est toujours amené à être réimprimé, ça ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que si vous voyez de la spéculation hors de prix, vraiment, ne tombez pas dedans, parce qu'on va les réimprimer, c'est juste qu'il nous, enfin, faut nous laisser le temps, on a, voilà, maintenant plus de 150 bouquins, donc, ceux qui tombent en rupture, il faut qu'on trouve un temps à chaque fois pour les réimprimer petit à petit, parce qu'on a les nouveautés mensuelles à assurer. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on attend une actu. C'est-à-dire qu'on essaye de calibrer nos sorties événements tous les mois avec une actu, mais les réimpressions aussi. Donc là, par exemple, ça peut être des actus pop culturelles, mais ça peut être aussi nos propres actus. Donc, le livre de Jérémy sur la musique dans Final Fantasy est sorti. On en a profité pour réimprimer le livre sur la musique dans Zelda, oui, etc., etc. BioShock, on va attendre une actu.
C'est longtemps qu'on attend, hein.
Mais ça devrait arriver.
Il y a rien qui a été annoncé officiellement.
Toujours
mais
pas.
Mais il y a Judas.
Peut-être Judas, oui.
Mais c'était
Judas.
Ça l'actu.
Ouais, mais c'est vrai que c'est assez récent, quoi.
On va attendre l'actu de Ken Levin, ouais, sur Judas. C'est juste qu'on n'a pas encore spécialement de date, mais ça devrait arriver sous peu, donc je pense qu'on le réimprimera à cette occasion. Pour ce qui est de Skyrim, je suis pas sûr qu'on attende le 6, donc lui, c'est un livre qu'on nous demande, donc ça peut arriver en creux, quoi. C'est que de temps en temps.
Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait déjà énormément de réimpressions chaque année.
Ouais.
Ça, vous en rendez pas compte
parce que c'est pas quelque chose qu'on met l'accent dessus, mais je sais pas, on fait quoi? 10-12 réimpressions par an, donc
c'est quasi une par mois. C'est souvent par batch, mais
donc voilà, c'est juste faut attendre le tour, quoi. Donc ça viendra plus ou moins tôt.
Comptez-vous faire des livres sur des compositeurs de musique? Je laisse la parole à Damien Méchery.
C'est vrai que là on a sorti donc la musique dans Final Fantasy, musique dans Zelda, mais c'est pas sûr de ça se concentre sur les compositeurs, mais c'est pas des livres sur les compositeurs eux-mêmes. Et avant d'aborder la musique en général, comme on l'a dit plutôt dans la FAQ, il y a aussi la question des compositeurs de musique de film, puisque c'est quelque chose qu'on aime aussi, hein, la musique de film. Et bien, il se trouve, extraordinaire coïncidence, que le mois d'avril, on sort un livre sur John Williams, voilà, le plus grand compositeur de musique de film, en lui consacrant un ouvrage écrit par Jean-Christophe Manusso, qui a déjà, pas pour nous, mais écrit un gros ouvrage sur Ennio Morricone, donc vraiment...
Un gros ouvrage.
Très gros, 900 pages.
C'est énorme.
Donc rassurez-vous, nous, ça fait pas 900 pages, mais ça va être quand même un livre assez conséquent qui retrace toute la carrière de John Williams. Voilà, donc c'est...
Est-ce que vous avez vu cette couve?
On adore cette couve, cette teinte rose, je trouve ça très beau.
L'AFP ultra classe aussi.
Alors ça, on la redévoile pas encore.
Mais en tout cas, voilà, on compte sur vous parce que là, voilà, c'est une étape de plus en dehors de notre cercle, on va dire, un peu de cœur de cible. Donc, on ouvre un petit peu le marché. C'est à vous de nous dire, bah, si ça vous parle, si ça vous intéresse. Donc voilà, John Williams, enfin, par qui d'autre on pouvait commencer, quoi.
À l'occasion, il y aura un numéro de Soundteams, justement, sur John Williams pour la sortie du livre.
Oh là là, les choses sont bien faites. Marvel, j'ai vu ta question, je la garde après parce qu'on a une catégorie podcast. Une collection jeux de société, jeux de rôle, Donjons et Dragons par exemple.
Ça, c'est une très très bonne idée.
ça nous branche, ça nous intéresse, on voit que ça vous intéresse aussi.
Ouais. C'est un peu une extension ou quelque chose qui pourrait être assimilé à la collection littérature, d'explorer les univers du jeu de rôle, du jeu de rôle papier, des jeux de société. Ouais, ça nous branche de fou, toujours pareil, la difficulté pour nous c'est de trouver les experts, les bons auteurs pour ces sujets-là, mais on y pense et on y pense très fort.
Ouais, c'est vrai que c'est pas des domaines qu'on maîtrise nous ouais. particulièrement, donc c'est vrai que ce genre de sujet-là, ça va toujours moins vite que si c'est des trucs qu'on maîtrise un peu plus, quoi.
Dans la suite de vos ouvrages sur les réalisateurs, avez-vous prévu des livres sur Satoshi Kon et Wes Anderson ?
Alors c'est de là, non.
Mais... C'est de là, non, mais c'est des sujets intéressants.
C'est des sujets qui nous intéresseraient, oui.
Très bien. Est-ce qu'il y aura un tome 2 au livre sur Assassin's Creed ? Une question de Thomas Merer, auteur du livre sur Assassin's Creed.
Sacré Thomas. Donc on le salue au passage. Et oui, il y aura un second tome sur Assassin's Creed pour cette année. Donc regardez voilà, tout ce qui va se passer chez Serd aux alentours de voilà, la fête de fin d'année, Noël, tout ça.
Cette année, on croise les doigts, mais on va se caler à l'annonce.
Tu crois ? Même si ça...
On suit l'actu, comme on dit.
Voilà. Pourquoi je bug ? Ah oui, parce que j'ai vu un truc dans le chat. Et du coup, pour rester dans le thème, un livre sur Stranger Things, nous dit Echo.
C'est pas prévu pour l'instant.
Mais on a eu pas mal de débats au sujet de Stranger Things.
On en a parlé,
ouais. Ouais. Bah, ça reste une grosse série, hein, donc, qui plaît aussi, donc y a de la place.
Un livre sur les deux premières trilogies Star Wars, possible ou bien pensez-vous que c'est un sujet déjà trop traité ailleurs et trop susceptible de risque de redite ?
C'est vrai que ça a été très 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 traité, et à la base, hein, avec Thibaut, donc l'auteur de notre bouquin sur Star Wars 7, 8, 9, on avait cette envie, hein, on avait discuté de ça, et on voulait commencer par le côté plus récent au début, mais j'ai l'impression, un peu comme nous peut-être, un peu comme plein de fans de Star Wars, on a peut-être un peu perdu la flamme, hein, et Thibaut, j'ai l'impression aussi que c'est le cas quand je l'entends notamment parler des actus assez récentes. J'ai même l'impression que Lucasfilm aussi a un petit peu perdu la flamme et leur boussole, hein, où ils savent plus trop où ils habitent, à faire des films mandaloriens, enfin, voilà, donc ça vaut peut-être le coup de laisser un peu passer, laisser un peu tomber pour retrouver un peu la fraîcheur.
Ça a permis à Thibaut d'écrire un livre sur Warhammer.
Oui, voilà, donc d'explorer plusieurs pistes, mais c'est vrai que Star Wars, j'ai l'impression qu'on a peut-être un peu trop bouffé aussi ces derniers temps, quoi.
Ok. Et pour finir, dernière question wishlist. Envisagez-vous prochainement de dédier un ouvrage ou un ludothèque dédié aux jeux indés comme vous l'avez fait avec Celeste ou Undertale?
Ouais, on l'a rapidement évoqué, ouais. Il y en a au moins un de chaque. Un ludothèque et un gros livre sur des jeux indés, mais.
Comme voilà. On dit, on fait pas de distinguo, hein. C'est un jeu qui nous plaît, une licence qui nous plaît.
C'est vrai que quand on a fait le livre Undertale, on s'est pas dit, ah, c'est parce que c'est un jeu indé.
Oui.
C'est un jeu culte. Et
c'est vrai.
Qui mérite un traitement.
Donc, le premier jeu fait intégralement sous Paint, en plus, ça mérite un livre.
Ça troll beaucoup.
Je blague, évidemment.
Dans le chat, on s'enflamme. Il y a des propositions sur un livre sur Simon Stalenhag et aussi un ouvrage sur Phil Tippett.
Oh, calmez-vous quand même. Puis Phil Tippett, il y a déjà eu un bouquin qui est
sorti. Bah justement, la question de Dark House, c'était l'ouvrage existe en anglais et est-ce qu'il pourrait être traduit en français ? Excusez-moi, je suis pas allé jusqu'au bout.
Ouais, c'est Alexandre Ponce. Il existe pas en français, son livre, hein.
Non, et je crois qu'il a sorti effectivement qu'en anglais pour l'instant. Mais c'est un gros pavé en plus. Hein.
Ah ouais, ok.
Puis c'est le spécialiste sur le sujet.
Oui, c'est Alexandre lui-même qui gère.
Dark House, l'avait aussi dit.
Gilles Penseau, je crois. Les deux, il me semble qu'ils l'ont fait ensemble.
Ouais.
On passe à la catégorie podcast.
Ah.
Alors. la catégorie podcast, c'est des questions sur les podcasts. Et oui. Est-il possible de voir arriver un jour d'autres formats de podcast? Alors, ça rejoint, je crois, ta question Marvel de tout à l'heure qui disait des formats vidéo possibles. Alors, Marvel parlait de sessions de jeu, immersion dans la rédac, etc. Et là, de ce côté-là, dans la question, j'ai rétrospective de grandes sagas du JV, chronique fil rouge comme peut le faire Mehdi avec son top 10 All Times. Bref, du nouveau dans la catégorie audio-vidéo de Third.
Bon, on l'a déjà dit, c'est vrai que c'est un pan qui nous plaît bien et qu'on essaie de développer et qui est devenu vraiment assez important aujourd'hui, hein, mais on a déjà 6 formats de podcast. En faire plus, bon, je pense que ça serait compliqué. On n'a même pas de sujets ou de pistes qu'on a laissé tomber, hein. Mais c'est plus aussi des questions de temps, quoi. C'est vrai que le côté vidéo, peut-être qu'on aurait plus d'envie aussi là-dessus, mais ça demande aussi encore plus de temps.
C'est du temps et du budget aussi.
Ouais, vidéos, montage, ça, machin et tout. Enfin, c'est vrai que il y a peut-être une émission mensuelle, on envisageait à un moment pour présenter le livre du mois, comme, un peu comme on faisait les unboxings à l'époque, mais voilà, c'est compliqué à caler dans l'emploi du temps, donc c'est pas prévu, quoi.
Après, les raids d'alerte ont un petit peu évolué dernièrement avec des émissions qui étaient un petit peu plus thématiques. D'ailleurs, vous avez réservé un bel accueil à, par exemple, l'émission qui était sur les nouvelles consoles portables. Donc,
ouais, c'est surprise.
Raid Alert en tant que tel évolue un petit peu du coup ici et là. On a les Surstrike qui ont changé de forme aussi
ouais,
avec la nouvelle formule depuis la dernière saison. Donc ouais, on essaye malgré tout de rafraîchir un petit peu les formats qui existent déjà.
Il y a eu Fall and Rise de Third Song.
Oui, c'est vrai.
Qui avait disparu, qui est revenu. Enfin, je pense quand même, on doit produire quoi à peu près, je sais pas, 6 heures d'audio ou d'émission par mois.
Donc, au moins.
Je pense qu'on peut pas faire plus à l'heure actuelle.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'on aimerait, mais niveau emploi du temps, c'est.
Il faut la salle du compliqué. Temps de Dragon Ball.
Ouais, ou alors on arrête de faire des livres, mais. Il y en a un qui nous fait bouffer, pas l'autre, on va dire.
Vous voyez, par exemple, typiquement, le raid alerte, moi, sur ma semaine de boulot, c'est un jour entier. En fait, donc du coup, Mehdi et Nico, ils enregistrent le jeudi matin. Pendant qu'ils sont en train d'enregistrer, d'ailleurs, ils le disent des fois pendant l'enregistrement. Moi, je suis en train de préparer les synthés, etc., avec les infos qu'ils m'ont déjà données, préparer les extraits. L'après-midi, je monte, j'encode le soir et j'ai le podcast le matin. Donc, en gros, ça me bouffe déjà, moi, tout seul, 20% de mon temps. Et Mehdi et Nico, il faut qu'ils préparent les émissions, donc ça leur bouffe aussi une partie de leur temps. Et donc, ouais, c'est pas évident de, du coup, de dégager du temps supplémentaire pour l'audio et la vidéo. Mais je trouve qu'on a trouvé, mine de rien, un assez bon équilibre. Là, on est sur
des rails. Hein.
On est sur quelque chose qui est assez confortable pour nous et qui vous permet aussi d'avoir pas mal d'émissions à disposition. Quels sont les formats de podcast auxquels vous aviez pensé et qui vont peut-être exister un jour ou qui ont été annulés avant d'exister faute de temps ou pour la complexité suprême du projet? Bah, tu le disais, Nico, du coup.
Ouais, on a 6 formats qui nous plaisent et qu'on continue à gérer aujourd'hui, mais voilà, il y en a pas d'autres qu'on aurait laissé tomber ou quoi. Enfin, en tout cas, pas ce que je pense.
Bah ouais, le sort de son qui a été à un moment, c'est Ken qui s'occupait de tout, et donc c'est vrai que ça rentrait plus, donc on l'a laissé tomber. Et là, en fait, on rebosse avec les potes de 8Beats qui font du super taf hein, sur leur site avec une radio perpétuelle et plein d'invités qui font des mixtapes. Donc si vous aimez bien la musique de jeux vidéo, allez-y. Et voilà, nous, on participe avec eux à une mixtape tous les 2 mois sur l'actu l'actu jeux vidéo. Donc on va pouvoir diffuser, parce que c'était exclusivement chez eux, parce que nous, on n'arrivait pas à diffuser sur Spotify, ce genre de trucs, mais là, on va peut-être faire vivre un petit peu la chaîne YouTube en remettant les anciennes émissions en fonction de l'actu, des centimes, des sœurs d'émissions, tout ça. Et le sort de son, je pense qu'il sera aussi sur la chaîne YouTube.
Prochaine question. Est-ce qu'il y a des déformations professionnelles quand vous jouez à un jeu, du coup, à analyser directement certaines choses au lieu de profiter comme un joueur lambda?
Moi, elle m'a fait marrer cette question parce que y a pas d'opposition en fait. Quoi. Ouais. C'est quand je profite et que je m'amuse justement que ça peut me faire réfléchir ou me donner des idées pour des bouquins, des podcasts ou etc. Quoi. C'est pas l'un ou l'autre. Quoi. Au contraire, c'est quand je prends du plaisir et tout. C'est là où ça me fait aussi, ça m'évoque des sujets. Quoi.
Je trouve aussi que même une fois justement qu'on a ces mécaniques d'analyse qui sont un peu intégrées à force, et ça vaut pour le cinéma, pour tous les arts qui nous plaisent, etc. C'est qu'en fait, les deux vont ensemble et même. Je trouve que notre capacité analytique enrichit aussi l'expérience qu'on peut avoir du jeu. Enfin, en tout cas, mon titre, c'est le cas. C'est même certains reprochent, par exemple, le côté, mais si tu intellectualises, pardon, trop un film et tout, tu passes à côté des sensations, de machin. Pas du tout. Au contraire, je trouve que ça, justement, ça aide à comprendre ce qui se trame vraiment en profondeur et du coup, à ressentir d'autant plus intensément les émotions, les sensations, ce que c'est de véhiculer une œuvre. Donc, ouais, comme dit Nico, ça entre pas en opposition, au contraire, même.
Ouais, puis c'est vrai qu'analyse, c'est un bien grand mot, hein. C'est juste profiter d'une œuvre, et avec le background qu'on a aussi, peut-être en tant que joueur, ça fait forcément des connexions qui se font, donc c'est plutôt comme ça que c'est rigolo. Je sais pas, toi Ludo, est-ce que t'arrives... Est-ce que quand tu joues, tu kiffes malgré tout ? Est-ce que tu réfléchis trop ?
Ouais, ouais, non, je suis d'accord avec vous. S'il y a des moments où j'analyse, ça se fait de manière naturelle, on va dire, en jouant au jeu, et ça vient pas du tout parasiter l'expérience, quoi.
Ok, très bien. Pourquoi pas ouvrir un Patreon pour vous supporter autrement que par l'achat de bouquins ? Car par exemple, je suis pas un gros lecteur, mais j'ai vraiment envie de soutenir l'équipe.
C'est gentil déjà. Bah justement, on fait en sorte de monétiser aucun de nos podcasts, aucune de nos émissions, parce que nous, c'est un cheval de Troie, on va dire, pour parler de la maison d'édition et de notre travail. Donc, on voit que ça a fonctionné d'ailleurs et que ça valide un petit peu notre approche. Mais oui, pour le coup, la façon de nous soutenir, si tu veux pas acheter des livres, bah, ça sera partager les émissions, en parler autour de toi, mettre des likes, mettre des 5 étoiles, évidemment.
Quitte à mettre de l'argent, acheter des e-books, comme ça, il a pas le format livre physique à ranger chez lui.
Faire des cadeaux,
la box Damien Méchery. Hop. Non, mais c'est vrai que on se retrouve dans une situation paradoxale, en fait, où maintenant, on a peut-être des gens qui écoutent les émissions, mais qui n'achètent pas de livres. Et donc ils font le sens inverse un peu qu'on imaginait au départ. Donc ben voilà, juste en parler, partager, liker,
et du coup, commenter. Il y a Gugig dans le chat qui est l'inverse exact, qui est uniquement lecteur, et il dit: j'ignore complètement ce que peuvent vous apporter les podcasts en tant que maison d'édition. Bah Nico, il a plus ou moins répondu du coup.
Voilà, c'est des boosts d'ego quand on nous écoute. Ouais. non mais c'est on fait des podcasts avant tout parce que ça nous fait kiffer, je pense, hein. C'est la raison, la première raison, quoi. Donc si on kiffe et qu'en plus on voit qu'il y a des gens qui nous écoutent, ça vient valider le truc. Donc
les podcasts de Sword existent quasiment depuis le début de Sword, en vrai.
Deuxième année, je crois.
Ouais, ouais.
C'était les Sword d'émission depuis.
Ouais. Est-ce que l'acquisition d'un Steam Deck est dans les cartons pour pouvoir aborder dans Red Alert un peu plus l'environnement PC, notamment les jeux indés? Ça vous branche ou absolument pas?
Il y a plein de jeux indés sur Switch.
Ouais, on est vraiment pas PC. Ouais. Pour le coup, tu vois, Steam Deck, on a beau être un peu, tu vois, des technophiles, on va dire, qu'on vous parle de la Playdate ou de la PlayStation Portal, hein.
Mais vite fait, quoi, dans cette mesure.
Steam Deck, évidemment, ça me donne envie, parce que comme tout objet un peu techno, je trouve ça cool, mais chaque fois que j'y réfléchis deux secondes, je me dis non, je suis pas le public pour, ça me servira à rien, donc. Mais c'est vrai qu'aucun de nous n'est vraiment PC.
Mais ça se voit dans le profil de nos livres.
Ludo un petit peu, quand même.
Oui.
Ouais.
Moi, je joue à certains jeux qui sont exclusifs sur PC, mais il y en a pas tant que ça, en vrai. Et du coup, c'est juste que je passe énormément d'heures dessus.
Oui. Bah après, XCOM est sur console aussi, mais c'est juste que ça devient plus agréable à jouer sur PC.
Ah, XCOM, il est 1000 fois plus agréable sur PC.
Yes.
Et t'aurais pas envie d'acheter un Steam Deck, Ludo, pour jouer dans ton lit à ces jeux-là ?
Non, pas du tout. Non, je suis bien sur ma station, là.
Moi, je vais finir par en avoir un, je pense.
Ah ouais ?
Ouais, ma meuf, elle me fout un pressing de taré.
Faut libérer l'écran.
Non, mais c'est même pas une question de libérer l'écran, parce que ça, il y a 1500 solutions, mais c'est surtout les jeux indés, en fait. Comme le dit, du coup, la question, c'est qu'en fait, voilà les jeux, elle les voit passer sur TikTok, YouTube ou quoi, et en fait, ils sont pas sur Switch. Ouais, en vrai, Steam, c'est un vivier phénoménal, et du coup, c'est ce que la question disait, notamment les jeux indés, c'est un plus pour ça. Hein.
Cozy Game, par exemple.
Ah, les fameux Cozy Game, n'est-ce pas? Bah, justement, il y en a plein qui sortent pas sur Switch ou qui sortent dans des états lamentables. Je ne citerai pas de nom. Cela vous intéresserait-il de lancer votre propre revue en plus des podcasts, que ce soit un mensuel, un trimestriel ou directement commandable sur le site? Bah, c'est comme pour les podcasts, en fait, y a pas trop le time, quoi.
Ouais, puis c'est la roue qui a tourné, là, c'est qu'on demande du contenu papier par rapport à nos podcasts, alors qu'avant tout, c'est nous, on fait des bouquins, et les podcasts sont une extension de ces livres, donc voilà, aller vers les bouquins, je pense que c'est le format qu'on privilégie, dans lequel on peut s'éclater aussi, et vraiment analyser un sujet au plus profond. Après, évidemment, nous, on est des comme on l'a dit 50 fois, des enfants de la presse jeux vidéo, donc...
Oui, mais ce qui est rigolo, je pense, c'est que, par exemple, en l'occurrence, les Red Alert, qui nous font traiter l'actu, c'est en réponse à une frustration de « on a envie de parler d'actu d'une façon ou d'une autre », donc on a créé ce format-là, et quelque part, tu vois, qu'on nous pose la question sur un format papier, ça peut être logique si tu connais l'histoire, mais voilà, maintenant, on fait des bouquins entiers, donc...
En parlant de revue, il y a eu dans le chat plutôt une question, c'est pas une revue, mais c'est un MOOC, n'est-ce pas? C'était au sujet d'une réimpression de Level Up niveau 1. On peut le dire, non, il sera pas réimprimé malheureusement, ni le level up numéro 1, ni le level up numéro 2. Et je crois qu'il reste un peu du 3 et du 4.
Pas beaucoup, mais un tout petit peu.
Le 3, il en reste, je pensais qu'il était tombé. Tu vois.
Ah ouais?
Ouais, je pensais qu'il restait que du 4.
Hein. Ah, possible. Bref, dans tous les cas, là, ça fait partie des rares cas où, en fait, si c'est des éditions classiques, elles seront pas imprimées, le level up du coup s'éteindra comme d'habitude, hein, c'est un truc qui revient très souvent, le plébiscite pour les level up, mais vous êtes pas beaucoup, enfin c'est pas un format qui a extrêmement bien marché, preuve en est, le volume 4 il est sorti il y a quoi, 6 ans au moins, ouais, il est toujours en stock et il y a eu qu'un seul tirage, donc voilà, ça explique pourquoi la collection ne reviendra pas. Mais en tout cas, merci
ce sera les vrais collecteurs de Third, ça.
Ah ouais, ça, pour le coup, c'est vrai.
Alors les level up first print en plus,
accroche-toi
là, c'est on passe à la dernière catégorie, la catégorie perso.
C'est des questions un peu
rigolotes, petites questions ici et là, donc pareil, vous pouvez si vous avez des questions perso, alors, dans la limite du raisonnable, bien entendu, dans le chat, allez-y, hein, je les lirai.
Si vous arrivez à ce moment du live, vous allez vous demander ce qu'on raconte.
Oui, c'est vrai. Alors, première question, mer ou montagne pour les vacances?
Montagne.
Campagne.
Voilà, il répond pas à la question, c'est typiquement...
Non, je serais à choisir plus montagne. C'est vrai que le côté mer, maintenant, m'est passé un peu.
Allez, j'ai grandi.
J'aime pas le sable et le sel, donc...
les deux, pour ma part.
Allez.
Mais bon, si je devais choisir plus ça montagne, tombe bien, vu que j'ai vécu longtemps au bord de la mer, donc...
Ok, et Ludo, du coup, c'est pas l'inverse pour toi?
Moi, c'est plus la mer, parce que je suis en montagne toute l'année.
Ok, d'accord.
Voilà,
très
donc
bien.
Voilà. Mais après, la mer, moi je préfère la mer du Nord, je suis plus au niveau Bretagne, Normandie,
que le côté de Grèce.
C'est bien, c'est précis.
Voilà. Ça, on se baigne pas, quoi.
C'est pas vraiment pour me baigner, quoi. C'est plus pour les paysages.
D'accord. Bon, personnellement, je dirais mer, mais c'est un peu par défaut parce que moi, les vacances, j'aime bien les passer chez moi. Alors, prochaine question, eau plate ou eau gazeuse?
Aux gazeuses.
Aux gazeuses, bien sûr.
Oh non, plate.
Alors, déjà, aux gazeuses, ça dépend, parce qu'il y a plusieurs teams. Moi, je suis sans Pellegrino.
Ah, totalement sans Pellegrino. Ah, d'accord, la finesse des bulles.
Ouais. Parce que Perrier, non. Trop, Perrier,
trop grosse bulle.
Ouais.
Et c'est quoi les mini bulles, là?
Perrier fine bulle, là?
Fine bulle.
Ah, j'ai jamais goûté, mais tu vois, c'est, ils essayent de copier sans P.
Ah, je pense. Sans Pellegrino.
Damien, aux plates et Ludo?
Plate.
Ok, très bien.
Je déteste l'eau gazeuse, c'est horrible.
Ah ouais? Ça fait roter, quoi. Hein. Mais bon.
Ça ajoute un peu de peps, quoi, parce que l'eau plate, comme son nom l'indique.
C'est plat.
C'est plat, quoi. Ouais. Quelle aura été votre plateforme de jeu pour 2023? À 2023, donc c'était l'année
2023,
dernière.
Bon, je pense PS5.
Ouais.
La plus utilisée.
Toi, t'es vraiment une fraude. Hein.
Pourquoi?
Parce que ta Switch, t'y touches jamais. Hein.
Ah ouais. La Switch, Nintendo a arrêté de faire des jeux sur Switch, attendant la Switch 2.
Attends, il y avait Zelda
l'année dernière.
C'est vrai. J'ai beaucoup joué à la Switch aussi. Non, mais en cumul, je pense qu'en cumul, j'ai plus lancé ma PS5. Mais je suis pas sectaire, moi. Peu m'importe.
Oui, c'est bien. Mais t'as tes chapelles quand même, malgré tout.
Moi, ça fait plusieurs années. Je crois que je cite la Switch en console de l'année, mais l'année dernière, non, c'était PS5.
Ok.
Je crois que ça devait être. Je pensais jouer la même chose aux deux, mais bon, mes deux jeux de l'année, c'était Zelda Tears of the Kingdom et Xenoblade 3 DLC, donc on va dire que c'était la Switch.
Ok. Et toi, Ludo?
Moi, c'était la PS5 en termes de cumul, ouais. Ouais, PS5.
Très bien. Moi, sans surprise, hein, c'était la Xbox. Je fais partie des 12 personnes en France qui jouent encore assidûment à la Xbox.
Le vrai nom de Ken est Ken Spencer. En fait.
Le popcorn, salé ou sucré? Ah, moi, sucré.
Sucré, mais oui.
Ouais, sucré, ouais.
Alors, moi, j'ai goûté... attends, on est quel jour? Hier.
T'as une anecdote de fou, là, je sais.
Non, mais vraiment, c'était très, 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 très bon. C'est que actuellement, alors, je crois que peut-être c'est que pâté, il y a une édition limitée du popcorn sucré-salé, donc ils mélangent les deux pour voir Dune, qui est le film de l'année, allez-y, c'est exceptionnel. C'est trop bon, mais genre de ouf. Top, et t'as le sucré salé en même temps. Non, c'est le principe, mais c'est trop de la balle, franchement.
Le truc qui est chelou qu'on voit dans les films ricains, c'est qu'ils mettent du beurre
les ricains.
Mais ça je comprends pas, tu t'en fous plein les doigts.
Mais c'est les ricains, ça.
Les ricains, ils mettent aussi, tu vas te dire que c'est dégueulasse, mais ils mettent des raisins secs, ou par exemple dans Whiplash, il fait ça. Il achète des raisins secs et des chocolats, et il met dans les popcorns comme ça.
Et dans Mr. Robot, il met des M&M's, je crois, dedans, ou des...
Mais ils piment de ouf, les popcorns.
Ouais, mais t'as mal au bide.
Ouais, tu peux pas refuser.
Quoi?
Des trucs dans le popcorn.
Si je refuse.
Trop bon.
Moi, j'avoue, je suis pas popcorn.
Non plus.
Mais genre dans la vie?
Ouais.
Ah ouais?
J'en mange jamais.
Ouais, mais c'est pour ça.
Ouais, c'est vrai que moi, je suis pas.
Ça m'intéresse pas plus que ça, quoi.
Dans l'absolu, je trouve que
c'est un des meilleurs goûts.
J'ai l'impression de manger du polysirène un peu, quoi.
Ouais.
Tu sais,
ouais.
Genre de l'air qui sert à rien, quoi.
C'est nul. Ouais.
Non, mais c'est méga bon.
À la rigueur, je préfère taper un gros grec dans le ciné.
S'il y avait moyen.
Attends, mais je vais vous apporter des pop-corns Werther's originaux plus Bretzel, vous allez devenir fou. Ouais. C'est en même temps.
Ah, écoute, c'est plus pop-corn.
J'attends de voir.
C'est quoi?
C'est des Werther's et des Bretzel, quoi.
Ah, mais c'est comme un burger, tu vois, si je t'amène un steak ou un burger, c'est pas pareil, tu vois, il y en a un qui est cuisiné pimpé.
C'est vrai. Ludo, ah ouais. Ludo, tu es quoi?
Je suis pas un grand fan de popcorn non plus, mais sucré.
Très bien. Alors, j'ai une question que je me pose depuis un moment et qui est ultra importante. Oh.
C'est la vraie question, ça?
Oui, c'est, voilà, c'était lequel. Jouez-vous à TTFL? Et si oui, quel est votre meilleur classement en saison régulière? Alors, la question m'a étonné, parce qu'à une époque, vous faisiez un peu de forcing sur TTFL, il me semble.
Alors, on a pris notre retraite, on va dire.
Ouais.
TTFL, c'est la Fantasy League de basket NBA du site Trash Talk.
Ouais.
Donc, où tu fais, chaque jour, tu sélectionnes ton joueur en espérant qu'il va faire des gros scores. Et donc, tu gagnes des points par rapport à ça. Moi, je me suis retraité avant toi, Med.
Ouais,
tu t'étais pris au jeu, toi.
Ouais, mais ça me prenait trop de temps, en fait.
C'est payant?
C'était non, c'est gratuit, mais ça, c'était trop deep, quoi.
Fallait... Si tu veux être sérieux, vraiment jouer sérieux, faut y passer du temps.
Ouais, tu regardes tous les soirs la liste des blessés, faut faire son bon choix. Des fois, après, c'est le premier truc que je faisais le matin, en fait. Je me levais, le premier truc que je regardais, c'était le score. Mais ouais, non, ça m'a trop pris de temps, donc j'ai abandonné. Mais on a eu la Team Third, hein.
On a fait des playoffs, on s'est fait éclater, je crois, mais.
Non!
On est passé en playoffs,
on les a gagnés.
Voilà.
Champion.
Il y avait une section bah, je crois qu'elle existe toujours. Je sais pas, la section TTFL sur le Discord.
Ah ouais, elle a dû, peut-être qu'on l'a fait sauter.
Et oui.
C'est vrai.
Prochaine question qui est pour moi spécifiquement, je pense que c'est une question de Marvel 2002 qui est dans le chat. Ken va-t-il changer de perso dans Street Fighter un jour? Non! Jamais, je jouerai toujours Ken jusqu'à la mort. Il faut savoir que ouais, du coup, j'ai commencé à jouer à Street Fighter 2, j'avais 4-5 piges, et donc j'ai reconnu mon prénom dans l'écran de sélection du jeu, et depuis, j'ai jamais changé.
C'est normal.
Perso. Moi, s'il y avait un Nicolas, je prendrais Nicolas.
Ouais, voilà, tu vois.
C'est de la chance que ce soit un perso cool quand même.
Ouais.
T'aurais pu tomber sur.
Ouais, tu sais qu'il est mal vu, Ken, en mine de rien.
Parce qu'il est mal, parce qu'il est fort.
De quoi?
Parce qu'il est trop fort.
Non, tu sais, c'est un peu genre, comment t'expliquer ça, sans être méchant envers qui que ce soit.
C'est un peu le perso de base.
C'est le perso de débile, quoi, en fait. Tu vois, c'est genre, les mecs qui jouent Ken, c'est des débiles profonds, enfin voilà, quoi. Donc du coup, moi, je sais pas si je suis un débile profond, à vous de me le dire, mais moi, je le joue parce que voilà, je m'appelle Ken, et donc tout bêtement, un perso s'appelle Ken dans le jeu, donc je le joue.
Et t'as quand même un petit niveau en jeu de baston. Hein.
Ah, ça joue.
Je me débrouille, mais la personne qui a posé la question est bien plus forte que moi, sachez-le.
Il est au Toulouse Fighter, machin?
Non, il est pas au Toulouse Fighter, mais on s'était croisé à un tournoi en ligne, du coup, et il m'avait éclaté. Et il m'avait tellement éclaté qu'il ne se rappelait même plus du match.
Voilà le disrespect.
C'était une anecdote pour lui, alors que moi, j'avais retenu que je m'étais fait bien défoncer. Alors, quel genre de jeu aimeriez-vous revoir sur le devant de la scène?
Quel genre? Là, on aurait dû réfléchir un peu.
Ouais, c'est vrai.
Bah, on a fait un top 3 dans Red Alert, justement, les jeux qui nous manquaient.
Ouais.
Donc,
Ah, tu meubles, c'est bien, là.
Ouais, je vous laisse le temps de réfléchir. Donc, nous, qu'est-ce qu'on avait cité, Ben, dans notre top 3?
C'est pas si vieux, en plus.
C'était il y a 2 semaines, hein. On avait parlé de Metal Gear, parce que Metal Gear, il n'y a plus de nouveau Metal Gear, étant donné que son créateur ne travaille plus.
Mais là, c'est des genres. Tu veux des jeux d'espionnage?
Parce que le genre, tu vas l'avoir. Fizine.
Pour l'anecdote, alors, réfléchissez pendant que je fais une anecdote, hein.
Ouais,
mais
vas-y.
Pour l'anecdote, j'avais envie d'un retour d'un jeu Mickey dans le top 3. Et bam, l'après-midi, Nintendo Direct, le retour d'Epic Mickey en remaster.
Ça, on le sait pas, parce que quand l'émission a été diffusée, il avait déjà été annoncé Epic Mickey, donc ça, il faut te croire sur parole que tu avais pas triché. Hein.
Écoute, croyez-moi. C'est bon, vous avez réfléchi?
Bravo. J'étais en train de boire tes paroles. Du coup, non, mais moi, j'ai pas de genre. Moi, je suis saucé, c'est bon, hein. Je joue qu'à deux types de jeux. Je joue à des jeux de combat et des beat'em up.
Tu joues des jeux Capcom?
Et des jeux Capcom, et tout est là. J'ai mon Street Fighter, j'ai DMC5 qui est encore dans ma vie. Enfin, tout va bien.
Et toi, Ludo?
Bah, moi, je pense que tous les genres que j'aime sont représentés, en fait. Enfin, ont été représentés, on va dire, dans les 5 dernières années. C'est marrant, quand j'avais lu cette question, j'avais aussi pensé à Metal Gear. C'est-à-dire à un jeu d'infiltration, on va dire, aussi bon que Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Et bah, j'imagine que ce sera le prochain Kojima, en fait.
Ouais.
Et même voilà. Toi, XCOM, t'es pas garanti d'avoir de nouveaux XCOM au niveau des anciens.
Bah, c'est vrai, puisqu'il n'y a plus Solomon, on va voir ce qu'ils vont faire.
Il a pas dit qu'il voulait un plus changer de genre si jamais il fera
après,
pas forcément.
Après là c'est une licence hein, dont tu parles, c'est pas un genre quoi, je veux dire des genres.
Oui, mais toi,
des
tu t'en fiches toi, ça s'appelle tu t'en fiches, ouais. Ça s'appelle XCOM, toi tu veux ce genre de jeu.
Hein. Ah si, Mehdi, on en a parlé en plus, bah c'était un peu dans le Red Alert aussi.
Bon, Sonic.
Non, reste tranquille. les jeux de voitures arcade.
Ah ouais, ça serait cool,
ça, ça manque de fou, ça.
Les Burnout.
Ouais. Ça, ça manque de fou. Ridge Racer.
Ah, Ridge Racer, oui, c'est celui que j'avais bouffé. Ah ouais, jeu de voiture arcade. On s'amuse un peu.
Oui.
Tu vois,
le fun, c'est bien.
Mais oui.
Parce que Forza Horizon, c'est sympa, mais c'est pas, tu vois.
Ouais, non, c'est bon.
Ouais, il y en a marre.
Soulé, quoi. Non, mais vraiment, Forza Horizon.
Alors, Dago demande comment retélécharger les versions e-book des livres que t'as achetés sur sœurdédition.com. Bah, en fait, tu vas sur mon compte et après, tu vas dans mes téléchargements et là, tu verras qu'il y a tous les fichiers que tu peux télécharger autant de fois que tu le désires puisque, rappelons-le, les e-books de Sœurd sont sans DRM.
Téléchargez-les avant l'année prochaine.
Au cas où.
Faites des stocks. Faites
tous
des
vos e-books. Ouais. Si vous avez des e-books.
Dans l'idéal.
Franchement.
Stockez-les.
Mettez-les de côté.
Voilà.
C'est téléchargez-les. On sait jamais ce qui peut arriver.
On sait jamais.
Voilà. Où mange-t-on le meilleur canard de Toulouse?
Alors ça. Comment il s'appelle sur la place Wilson, le cassoulet? Chez Émile.
Chez Émile.
À ce qui paraît, c'est un très 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 bon resto toulousain, un peu historique, mais
même sur le boulevard, t'as la maison du cassoulet, genre ils sont là depuis 1800, je sais pas quoi.
Ah, j'y crois pas eux.
Mais on n'est jamais allé ni dans l'un ni dans l'autre.
Mais chez Émile, il faudrait qu'on y aille avec la team.
Mais grave,
le, c'est vraiment le truc toulousain.
Je pense qu'on a dit ça.
T'es team cassoulet? Vous êtes team cassoulet?
Oui, moi ça me va.
Ouais, seul cassoulet que j'ai bouffé dans ma vie, c'était des William Sora en boîte. Ouais, ils étaient pas dégueulasses.
Tu goûtes un vrai cassoulet du coup.
Bah écoute, on se fera ça et on vous tiendra au courant.
Dernière question de cette FAQ, en tout cas question préparée, peut-être qu'il y aura une dernière question dans le chat. Parmi vous, qui a la meilleure tolérance au piment?
Alors ça, si vous ne croyez pas si bien dire, c'est un vrai bail chez nous.
Ouais.
Alors il y a des gens qui aiment et qui aiment pas le piment.
Oui.
On sait pas qui le supporte le mieux.
On a un petit team de pimentos.
Ouais, c'est ça. On est tous les trois là, on fait des challenges.
Vous avez dû souffrir tous les trois.
Ouais.
Oui.
Mais normalement prochainement, vous devrez avoir des news là-dessus d'une manière ou d'une autre.
Ouais, ça fait bizarre comme teasing.
Ça fait bizarre comme teasing.
Mais sœur d'El Piment, il y a peut-être un bail à venir.
Moi, je pense qu'il faut qu'on départage de façon équitable et claire
qui le vrai pimentos de Sœurd.
Voilà.
Moi, je peux répondre à qui a la moins bonne tolérance au piment.
C'est toi?
C'est Damien.
Ah ouais?
Ouais, oui. Vous vous rappelez pas mes faritas à la dernière Japan?
Ah, mais oui, c'est vrai, c'est vrai.
Ça souffle très vite.
Non, moi, j'aime bien.
Ok. Oh, Ludo, il pourrait aussi participer.
C'est vrai que oui, il faut que tu viennes, quand on fera tester les sauces.
Voilà. On n'en dit pas plus.
Les sauces!
Eh ben écoutez, une question de Jojo Original Art au moment où on allait conclure. Mais c'est parfait, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais, sinon ce sera l'année prochaine qu'on répondra à vos questions.
Qu'on big up Jojo, c'est lui le cas.
Ah, c'est Jojo qui a fait ce truc qui démonte avec Mario Kart. Regardez, ouais. Ça c'est le travail de... Bah là on le voit pas.
Voilà. Et pour l'anecdote, on l'a croisé dans la rue.
De quoi, Jojo?
Ouais, si on... c'était après le resto du TGS, quand on rentrait.
Ah,
il y avait Ludo,
ouais. Ouais.
On était dans le mal.
Alors du coup, Jojo, est-ce qu'on est collectionneur rétro gaming? Je pense qu'on a à peu près tous le même rapport à cette question. C'est qu'en fait, on a, dans la mesure du possible, n'est-ce pas Nico, conservé notre collection du passé, mais on n'est pas des genres de personnes à acheter des jeux du passé aujourd'hui.
Ouais, pas trop collectionneur.
Hein. Ouais.
On m'aide avec ton petit totem, ton hôtel Final Fantasy VII. Mais...
J'ai une grosse collègue JRPG. Que je construis encore aujourd'hui, mais c'est que du démat. Mais fut un temps, j'avais ça ouais, sur les JRPG, mais c'est fini. Quoi.
Ouais, à la rédac, on a quelques trucs, mais c'est plus pour la déco, quoi, en fait.
Bah c'est pareil, c'était des jeux que vous avez glanés pendant plusieurs années. Oui. Je pense qu'on est un peu tous pareils. Ouais, j'ai pas mal de jeux à la maison aussi.
Ouais.
Mais c'est en fait des jeux auxquels j'ai joué quand j'étais gamin, et en fait je les garde parce que juste je regarde la boîte et ça me rappelle que été 2002 j'ai saigné le jeu pendant tout l'été. Mais il y a peu de jeux, ça m'est arrivé quelquefois, tu sais, genre des trucs vraiment que j'avais raté quand j'étais gamin, je me suis dit même si je peux y jouer en émulation, c'est juste pour le kiff, je vais l'acheter. Mais c'est vraiment assez rare, c'est minoritaire quoi, c'est vraiment quelques jeux bien précis.
Rien de bien rare. On a quand même un Dragon Quest sur DS blisté, je crois, qui cote pas mal apparemment.
Oui.
On a quelques
on n'a pas grand chose, venez pas à la rédac. Ouais. Franchement, c'est pas ouf, quoi, ce qu'on a.
Il est pas chez nous.
Il est pas là,
en plus.
Il vient de partir, là, au moment où il s'est cassé, il a fait bon, on a découvert ma position, je me barre. Voilà.
On a que des livres, c'est bien trop
des
lourd.
Des livres lourds, qui ont aucune valeur.
Et on est au cinquième étage.
Sans
donc,
ascenseur.
Vraiment nul.
Des questions dans le chat. Est-ce que le forcing de Damien pour Sky Child of the... Children, normalement, Children. C'est Children of the Light avait fini par payer chez les membres de Third. L'avez-vous au moins essayé?
Ouais, il a payé dans le sens où
on l'a fini.
En fait,
Sky.
Mais Nico, il avait fini à la sortie.
Avant,
quoi. J'étais le seul avant moi-même. Donc, eux, ils avaient pas aimé. Moi, j'avais.
Before, adoré. It was cool.
Et après, j'ai essayé de les relancer. Ça a jamais marché. Nico l'avait refait quand il était sorti sur
PC. Non, j'ai relancé.
J'ai relancé. Il avait dit, ah oui, c'est maintenant que
60 FPS, ça change un petit peu, quand même.
Il avait dit, ah, c'était quand même plus agréable.
Voilà. Mais pour moi, ça reste, malgré tout, le moins bon jeu de Genoa Chen.
Après. Mon forcing a marché un tout petit peu. J'ai vu des personnes quand même se lancer dedans après coup. Il y a David aussi, Torres, donc l'un de nos auteurs qui a écrit co-écrit notamment le livre Harry Potter, mais aussi Doctor Who, qui lui s'est lancé. Je crois même qu'il joue encore, donc il a même dépassé, quoi.
Le pauvre.
Il continue d'y jouer, de faire les saisons actuelles. J'avais fait une petite partie avec lui. On s'était retrouvé dans le même niveau. C'était très sympa. Voilà.
On s'est
de bons souvenirs.
On s'est allumé nos bougies mutuellement. Voilà.
Mais oui, bah oui, on s'était tenu la main et tout. Donc c'était très mignon.
Jouer à Journey plutôt.
Ludo, t'as joué à
c'est 2 heures. Sky, c'est 50 heures de bonheur si tu fais tout.
Non, j'y ai pas joué, non.
Et ben, nous sommes ensemble. Voilà.
J'ai pas envie. Plus.
De toute façon, c'est tout simple. En vrai, le forcing, ça marche pas. Moi, ça fait 20 ans maintenant que je fais du forcing sur Xenosaga. Ça a jamais marché.
Mais pourquoi tu continues alors?
En proportion du forcing. Mais parce que c'est des œuvres qui me parlent et qui me touchent profondément. Et donc, j'ai toujours envie d'en parler. Mais je vois très bien que ça marche très bien.
Vous avez pas un pari en cours, Ken et Damien? Genre, si toi tu fais Sky, lui il fait Sonic Adventure, ou y a pas un truc comme ça?
Je sais plus.
Sur Sky, ça?
Non, je sais plus sur quoi c'était.
Ouais, genre, ça me dit quelque chose, cette histoire.
On essaie de faire jouer Sonic à Damien.
Ah, ouais, ce serait génial. Je pense qu'on pourrait en faire un format vidéo, justement. Damien découvre Sonic Adventure. Bah, tu réaliserais que Nier Automata a tout volé à Sonic Adventure.
Je me rappelle de ton thread.
Ouais, tu serais choqué.
J'ai revu ton thread et il y avait quand même pas beaucoup d'éléments. Désolé.
C'est déjà pas mal, hein. Il y en avait au moins 5. Alors, Echo demande Ken, Capcom ou Sega. Mm-hmm. Capcom all the way. Je l'ai dit dans le Third Strike.
Et t'as changé, gars.
Ah oui, d'accord. Ah, ouais, j'ai changé de fou, mais après, à un moment, faut arrêter de vivre dans le passé, tu vois. Genre, il faut aller de l'avant. Et force est de constater que Capcom est le meilleur éditeur de jeux vidéo depuis au moins 4 ans.
C'est le mec qui joue à Dragon's Dogma 1, quoi. Faut arrêter le passé. Mec, il a 300 heures sur un jeu qui a 10 ans.
Non, mais t'as compris.
Combien d'heures sur Dragon's Dogma?
Bah là, hier, j'ai battu le boss du post-game, c'est bon.
Oh,
j'ai 140 heures, du coup.
Écoute, voilà. on est bien.
Et j'ai passé un excellent moment. Je ne regrette aucune de ces 140 heures. Et je suis fin prêt pour Dragon's Dogma 2. Non, mais il n'y a pas photo. J'aime énormément Sega, hein, vous connaissez. Sega, c'est ma life, mais...
Mais c'était mon ancienne life.
Ouais, c'était... c'est mon ex. On est resté en bon terme, mais bon, vas-y.
Crise de la trentaine.
Ouais. Non, enfin, et quoique, là, je suis en train de jouer à Yakuza 7 avec ma meuf. Et franchement, je l'avais mal jugé, tu vois. Genre, maintenant que j'y joue, je me dis, bon, c'est carré.
Tu faisais un peu l'ancien, genre, non, moi, Yakuza, c'est que beat'em up et tout.
Ouais, mais après, je préfère quand même les anciens, tu vois. Mais bon, c'est quand même carré. Mais bref, Sega, il casse la tête. Une OST de jeu à écouter. Waouh, vaste question. Une en particulier.
Vagrant Story, tous les jours de la semaine.
Eh ben voilà, Ludo a répondu à la vaste question.
Ah, mais pas en actu, ok. Parce que là, il y a Penis Big Berkoé qui est dispo sur les plateformes d'écoute. Écoutez-la hors jeu, pour le coup, parce que ça saoule en jeu. Ouais.
Alors que vous allez la tester en fait, avant d'écouter.
Il y a trop de niveaux avec les mêmes musiques. Et en fait, ça tue, hein. C'est composé par T. Lopez et tout. C'est mortel. Mais ouais, pour le coup, et c'est moi qui vous dis ça, alors que je déteste faire ce genre de reco, mais écoutez-la aussi hors jeu.
Et pour faire un lien avec notre week-end où on a passé pas mal de temps tous un petit peu sur FF7 Rebirth. La BO est quand même très très bien.
Ouais, après en jeu, ça, il faut se les encaisser les 400 musiques. Hein,
oui, non, après tu t'en rends compte, c'est fluide dans le jeu, quoi.
Oui,
c'est,
yes.
Dans le jeu.
C'est beau. C'est très très beau ce.
T'as vu? Mais ça, c'est la fin. À chaque fois, en fin de parcours, je suis là, je commence un peu à baver. C'est là.
Ah, hypoglycémie.
Le compositeur préféré de Damien, demande Echo.
Alors, franchement, je serais très incapable, je pense, aujourd'hui, de répondre à cette question. Bon, musique de jeu, je sais pas, Yasunori Mitsuda, allez.
Allez, c'est vendu. Eh ben, écoutez, il y a plus de questions, donc ça y est, on va arrêter cette FAQ numéro 5 du 9e anniversaire. Comme chaque année, hein, on vous remercie pour mille et une choses. Déjà, on vous remercie de nous soutenir dans notre travail d'édition. On vous remercie de nous soutenir dans notre travail de création de format numérique, n'est-ce pas? On vous remercie d'avoir posé des questions, du coup, pour alimenter cette FAQ qui a duré environ 1h30. On vous remercie d'être venu sur le live. Je checkais de temps en temps et on était à peu près une soixantaine de personnes. On est constant.
C'est
FAQ,
cool, hein.
En FAQ.
Ouais,
hein,
merci.
On est toujours,
c'est vrai que le lundi midi, bon, c'est pas le plus accessible, mais bon. Voilà. Il fallait bien trouver un créneau. Quoi.
Vous étiez au rendez-vous, donc vraiment, merci beaucoup. On ne vous mérite pas.
Allez, gâteau.
Exactement. Bah écoutez, on va vous laisser, on va conclure cette émission. Donc pour récapituler très rapidement les annonces qui ont eu lieu pendant cette FAQ, donc le tremplin numéro 4 qui sera sur le sujet littérature et qui arrivera fin de printemps, je pense. Ensuite, on a eu du coup la date de sortie du livre Dishonored. Hop, je peux même vous le mettre en visuel. Regardez-moi ça. Hop. Donc là, ça sera après-demain pour les premiums. On rappelle que tous les visuels que vous voyez, c'est les éditions classiques. Ensuite, donc ça, c'est très ancré dans le temps. C'est le Ludothèque du coup 4, 5, 6 en précommande. N'oubliez pas que ça finit mardi 5. Donc si vous écoutez la rediff, c'est sûrement déjà baisé. Ensuite, la légende FF12 revient dans une forme un petit peu plus light et moins chère et qui se concentre du coup davantage sur FF12, tandis que de l'autre côté, on a un livre qui est plus complet que ce qui lui était auparavant consacré dans le bouquin FF12, du coup avec un livre Vagrant Story, donc c'est de la sortie en mai. Et on finit avec le livre sur John Williams qui sortira en avril. Alors attention, c'est pas dans l'ordre parce que John Williams il va sortir avant FF12 et Eva Grand Story. Donc voilà, c'était toutes les annonces qui ont eu lieu dans cette FAQ. Il y a eu aussi des petites annonces qui étaient disséminées ici et là au fur et à mesure qu'on répondait aux questions. Et voilà.
Donc l'émission sera dispo en replay sur YouTube évidemment et aussi en format podcast dans la foulée.
Exactement. Donc cette année on va pas réutiliser le flux comme d'habitude. Je vais refaire un truc propre avec la piste de Ludo. Donc
okay.
Bon, ça arrivera rapidement. Vous inquiétez pas. Passez une bonne après-midi, passez une bonne journée, soirée, ce que vous voulez si vous nous écoutez en replay et et à bientôt.
Merci.
Allez, à tous.
Merci.
Salut tout le monde.
À plus.